présent ce soir ici à l'Espace Mouest France pour cette troisième conférence d'astronomie en 2009. Alors ce soir, on va parler des éclipses de Lune, de Soleil. En premier temps, en fait, on verra les circonstances, les choses pour qu'une éclipse ait lieu ou n'ait pas lieu. Et ensuite, eh bien, il y aura une présentation de... Je ne sais plus ce que tu m'as dit.
L'aspect historique des éclipses.
Voilà, l'aspect historique. Alors, au niveau de... Comme on n'est pas très nombreux au cours de l'intervention, si à un moment donné, vous avez une question sur ce qu'il est en train de dire, eh bien, n'hésitez pas. Étant donné qu'on n'est pas nombreux, on peut faire un dialogue très, 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 très simplement et très facilement. Et à la fin de la conférence, là aussi, si vous souhaitez avoir des compléments par rapport à ce qui aurait été dit ou vu, n'hésitez surtout pas. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Bien, donc je vous souhaite une très bonne conférence et donc à tout à l'heure.
Non ? Oh, ça dépend si c'est enregistré ou pas.
Ah, il y a le micro. Voilà, ça va aller. Bon, bonsoir. Je vais vous parler des éclipses de soleil, principalement. Hein, les éclipses de lune, on va voir, c'est un petit peu la même chose, mais... beaucoup moins spectaculaire d'une part, et d'autre part, on va voir que les conditions pour qu'il y ait une éclipse de lune ou de soleil sont les mêmes. Alors, en guise d'introduction, je vous parlerai des plus grandes peurs de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, on avait peur de trois choses. La première chose, c'était que le ciel nous tombe sur la tête, et on a eu des pluies d'étoiles filantes vraiment énormes. Et ça se comprend, qu'on ait peur. La deuxième peur, source de frayeur, c'était les comètes. C'était des phénomènes inattendus, de même que les pluies d'étoiles filantes. Et c'est les empereurs, notamment les empereurs romains, et puis plus tard aussi, souvent associés à leur mort une comète. Donc c'était des mauvais présages, que ce soit la pluie d'étoiles filantes ou la comète. Et la troisième source de frayeur, c'était les éclipses de soleil, parce que c'était des phénomènes particulièrement rares, non prévisibles la plupart du temps. Et on pensait dans l'Antiquité que c'était toujours un animal mystique qui dévorait le soleil ou la lune d'ailleurs. Alors en Chine c'était un dragon, chez les Mayas c'était un serpent. Alors le grand remède c'était de faire du bruit pour faire peur à l'animal et lui tirer des flèches. Et ça marchait parce qu'au bout d'un moment on voyait la lune ou le soleil. Alors les éclipses sont des jeux d'ombre et de pénombre. Alors voilà le cas le plus simple, on a une source ponctuelle et puis un objet entre la source et l'écran, et dans ce cas-là, on a une ombre qui en général a la même forme que l'objet qui occulte la source. Je dis bien en général, c'est pas toujours vrai, si vous mettez un cube ici, vous pouvez avoir la forme d'un losange ici, donc c'est pas forcément identique, mais disons que pour les formes qu'on rencontre dans l'astronomie, c'est quasiment toujours le cas. Si votre source n'est pas ponctuelle et plus petite que l'objet occultant, eh bien, on va plus avoir simplement de l'ombre, mais on va avoir de la pénombre. Alors, comment on fait ? On trace les tangentes aux deux sources, et ce qui est à l'intérieur, c'est l'ombre. Et on trace les tangentes intérieures aux deux sources, et l'extérieur va nous donner la pénombre. Donc, dans la pénombre, il n'y a qu'une partie de la source qui est cachée. Et dans l'ombre, il y a la totalité de la source qui est cachée. On est dans le cas où on a une source qui est plus petite que l'objet occultant. Donc vous voyez que le cône d'ombre, le sommet du cône d'ombre est ici, et le sommet du cône de pénombre est entre les deux. Maintenant, si on met une source qui est plus grosse que l'objet occultant, eh bien on trace de nouveau les tangentes extérieures aux deux sources, et le sommet du cône d'ombre va se trouver de l'autre côté par rapport à la source. Et de nouveau, le sommet du cône de pénombre est de nouveau entre la source et l'objet occultant. Dans ce cas-là, évidemment, en fonction de la position de notre écran, on va pouvoir être devant le cône d'ombre ou derrière. Si on est devant, eh bien, on est complètement dans l'ombre, donc on va cacher complètement la source. Et là, c'est de nouveau, c'est pareil, il n'y a qu'une partie de la source qui est cachée. Par contre, si on se met dans le prolongement du cône d'ombre, on n'est plus dans le cône d'ombre. Donc ici, c'est encore de la pénombre, mais on va avoir une source qui ne va plus cacher complètement, on va avoir un objet occultant qui ne va plus cacher complètement la source. Donc ça sera le cas, on va voir des éclipses annulaires. Si l'objet, si la source est à l'infini, par exemple des étoiles, eh bien, on peut considérer que notre cône devient un cylindre. Et dans ce cas-là, l'ombre a la même forme, la même forme et la même taille que l'objet occultant. Alors, on se sert de ça notamment pour déduire la forme des astéroïdes. Hein, la source à l'infini, ça va être une étoile. Vous faites passer un astéroïde devant l'étoile, eh bien, l'ombre de l'astéroïde va se projeter sur le plan. Et il suffit de mettre des gens un petit peu tout du long pour voir ceux qui vont voir l'occultation de l'étoile par l'astéroïde, pour avoir une idée de la taille de l'astéroïde. Donc ça s'appelle une occultation d'une étoile. Alors ça marche aussi pour la Lune, évidemment. Vous pouvez faire l'occultation d'une étoile par la Lune, ben vous allez avoir la forme de la Lune sur l'écran. Alors, dans le système solaire, des ombres et des pénombres, il y en a partout. Aussitôt que vous avez un objet et un écran derrière, ben vous allez avoir l'ombre de cet objet sur l'écran. Alors là, c'est Jupiter. Là, vous avez un satellite de Jupiter qui est Io. Et vous avez ici l'ombre de Io sur Jupiter. Alors, ce n'est pas forcément des objets ronds. Hein. Ici, vous avez les anneaux de Saturne. Et ici, vous avez l'ombre des anneaux de Saturne sur Saturne. Même chose, ici, c'est sur Mars. C'est le petit satellite Phobos qui est autour de Mars. Donc, l'ombre ici, vous voyez, il y a beaucoup de pénombre hein, autour, puisque le corps est assez tout petit. Et de même, on a vu depuis Mars une éclipse partielle du Soleil par Phobos qui a été enregistrée par les petits robots qui étaient sur Mars. Et vous voyez, c'est très, très rapide, hein, mais vous avez un passage de Phobos devant le Soleil. Alors, vu de la Terre, évidemment, la Terre, il y a une particularité, c'est qu'il y a l'atmosphère. Donc, vous voyez que la limite entre l'ombre et la pénombre est très diffuse. Ça vient du fait que vous avez l'atmosphère autour et tous les nuages. Donc, ça, c'est l'éclipse de 99 photographiée par la station Mir. Et là, vous avez une éclipse de Lune. Alors, vous avez ici le cône d'ombre et ici, bah, la pénombre qui est très loin, hein. Mais il y a ici, c'est la proportion de lumière qui arrive est très faible, si bien qu'on voit un léger dégradé, mais ici on est aussi dans la pénombre. Hein. Donc c'est beaucoup moins visible sur la Lune. Pourquoi ? Parce que l'intensité lumineuse du Soleil est très très forte. Hein. Là, vous voyez que la forme de l'ombre a l'air circulaire, ça veut dire que la Terre est ronde. C'est Aristote qui était un des premiers à émettre cette hypothèse, à savoir que comme l'ombre, la Lune rentre dans l'ombre de la Terre et que la forme est ronde, la Terre devait être ronde. C'était un des arguments pour la rotondité de la Terre. Voilà d'autres passages d'objets, cette fois-ci devant le Soleil. Ça, c'est le passage de Mercure en mai 2003. Et là, le passage de Vénus. Ce n'est pas du tout à l'échelle. Hein. Ici, ça fait 12 minutes et ici, 58 minutes. Hein. Donc, en réalité, c'est beaucoup plus gros si on mettait à la même échelle. Alors, dans ce qui nous intéresse, nous, c'est les trois corps, vont être le Soleil, la Lune et la Terre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut absolument pas représenter sur un dessin ces trois corps à l'échelle. Hein, la Terre fait 6400 km en gros de rayon, la Lune 1700, le Soleil 700 000 km de rayon. Si vous faites un dessin à l'échelle, par exemple, que vous mettiez une Terre qui ferait 2 cm de rayon, vous auriez une Lune qui ferait 1,5 cm, alors ça c'est encore réalisable, mais déjà il faudrait mettre votre Lune à 1,20 m de la Terre. Il faudra déjà une grande feuille de papier. Et si vous mettez le Soleil, bah, le Soleil aurait un rayon de 2,18 m et il faudrait le placer à quasiment 470 mètres. Hein. Donc tous les schémas qu'on va faire avec dessus le Soleil, la Terre et la Lune seront tous faux, ils ne seront jamais à l'échelle. Il faut bien en avoir conscience. Hein. Donc, on va tricher sur les angles, en fin de compte, parce qu'on va mettre un Soleil beaucoup plus près et beaucoup moins gros. Ce qu'il faut retenir, en fin de compte, de toutes ces données, c'est qu'on a un Soleil qui est 400 fois plus gros que la Lune et 400 fois plus loin. Ce qui fait que lorsqu'on va le regarder de la Terre, il va avoir quasiment le même diamètre apparent, qui est environ un demi degré, 30 minutes. 30 minutes, c'est quoi ? C'est la taille de votre pouce quand vous avez la main tendue. Donc avec votre pouce, la main tendue, vous arrivez à cacher le Soleil. Hein, c'est comme ça que les astronomes regardent s'il y a des cirrus dans le ciel. Ils cachent le Soleil et on aperçoit les cirrus s'il y en a. Alors, il faut connaître évidemment pour savoir quand est-ce que les étoiles, quand est-ce que les éclipses ont lieu, connaître le mouvement de la Lune et de la Terre autour du Soleil ou du Soleil apparent autour de la Terre. Alors pour ça, on peut dans un premier temps, disons, considérer les lois de Kepler. Alors Kepler, au XVIe, XVIIe siècle, en utilisant les observations de Tycho Brahe, a montré que pour représenter la position de la planète Mars, eh bien, il fallait utiliser une orbite elliptique. Donc la première loi de Kepler dit que les astres parcourent des orbites planes et ces orbites sont des ellipses. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ellipse ? Voilà, je vous ai tracé une ellipse. Il y a un grand axe, il y a un petit axe, il y a ce qu'on appelle deux foyers. Le corps central, c'est le Soleil, et il est à un des foyers, et puis la planète va tourner autour de ce Soleil. Comme le Soleil n'est pas au centre de l'ellipse, il y a deux positions particulières. Lorsque la planète va être loin du Soleil, alors c'est aphélie, hélie c'est le Soleil, hein, hélios, donc c'est loin du Soleil, et il y a périhélie quand on est près du Soleil. La Terre passe au périhélie vers le 4 janvier et à l'aphélie vers le 4 juillet. Donc, les distances entre la Terre et le Soleil ne sont pas constantes. Donc, le diamètre apparent du Soleil ne va pas être constant. Il va varier. Il sera évidemment plus gros quand la Terre sera proche du Soleil et plus petit quand la Terre sera loin du Soleil. La deuxième loi de Kepler, c'est une loi qui est liée au mouvement. C'est ce qu'on appelle la loi des airs. Si on prend quatre instants, T1, T2, T3, T4, de sorte que l'intervalle de temps entre T4 et T3 et T2 et T1 soit identique, eh bien, en des intervalles de temps identiques, les surfaces balayées par les rayons vecteurs, c'est-à-dire le petit segment qui fait Soleil-Terre, ces deux surfaces sont égales. Ça traduit le fait que, d'une part, la vitesse des planètes autour du Soleil ne sont pas constantes, mais c'est le produit R2, donc du carré de la distance, par la vitesse angulaire, qui est constant. Alors on voit bien que si on veut que la surface soit identique ici et ici, ben ici, ça va aller plus vite, puisqu'on voit bien que la surface va être, pour avoir la même surface, il va falloir balayer plus d'air. Donc, on en conclut que la vitesse est plus rapide au voisinage du périhélie et plus lente au voisinage de l'aphélie. Ça va avoir une conséquence, c'est quand vous allez avoir une éclipse, par exemple. Alors c'est pareil pour la Lune, hein, autour du sol, de la Terre. Bah, quand vous allez avoir la Lune qui est proche de la Terre, elle va aller plus vite que lorsqu'elle est loin. Donc la durée des éclipses ne sera pas la même. Pour une éclipse, dans le cas de la Lune, on va parler de périgée, hein, c'est géo la Terre, et d'apogée quand ça sera au plus loin. Voilà pour le Soleil. Alors la troisième loi de Kepler, je ne vous en parle pas parce qu'elle ne présente aucun intérêt pour les éclipses. Le mouvement de la Lune. Alors le mouvement de la Lune... La première chose, c'est que la Lune, elle ne tourne pas dans le même plan que la Terre autour du Soleil. Le plan de la Terre autour du Soleil, ça s'appelle l'écliptique, parce que c'est lorsque la Lune est près de ce plan qu'il y a des risques d'éclipse. La Lune, elle, eh bien, là j'ai pris l'orbite apparente du Soleil autour de la Terre, elle est dans un plan aussi, c'est la loi de Kepler, hein, c'est une ellipse en première approximation, mais ce plan, il est incliné par rapport à l'orbite de la Terre. Deux plans, ça se coupe suivant une droite, et la droite intersection des deux orbites, ça s'appelle la ligne des nœuds. Il y a un nœud ascendant, parce que là, la Lune va être en dessous l'orbite de la Terre, puis après, elle va passer au-dessus, puis là, elle va redescendre en dessous. Donc, il y a un nœud ascendant, un nœud descendant. Et là, on a le Soleil apparent qui tourne comme ça. Alors, comment on représente l'orbite de la Lune dans l'espace ? Eh bien, on se représente dans un système sphérique. Là, on a le pôle céleste, c'est-à-dire l'axe de rotation de la Terre. Et puis là, on a le plan apparent du mouvement du Soleil. On va mettre l'orbite de la Lune ici. Alors, on a vu qu'elle était inclinée. Donc, si elle est inclinée, il y a une certaine inclinaison par rapport au plan de l'orbite. C'est environ 5 degrés. Et vous voyez que comme les deux plans ne sont pas parallèles, ils se coupent suivant une droite. C'est la fameuse ligne des nœuds. Donc ici, on va avoir le nœud ascendant, ça monte ici, ça passe en dessous là-bas, donc là-bas, c'est le nœud descendant. Et bien évidemment, il va falloir positionner cette ligne des nœuds dans ce plan. Donc là, on a de nouveau un angle, ça va être une longitude, hein, la longitude et latitude, ça s'appelle la longitude du nœud. Après, il va falloir savoir où est le grand axe de l'ellipse là-dedans. Donc, si on trace le grand axe de l'ellipse, ça s'appelle la ligne des absides. Eh bien, de nouveau, il va y avoir donc un périgée quand ça sera plus près de la Terre et un apogée de l'autre côté. Et il faut donner l'angle que fait le périgée avec la ligne des nœuds. Donc vous voyez que pour positionner l'orientation de l'ellipse dans l'espace, il faut trois angles, l'inclinaison, la longitude du nœud et cet angle-là. Après, il faut dessiner l'ellipse. Donc pour dessiner l'ellipse, il faut connaître son demi-grand axe et son excentricité. Et puis après, il y a un angle qui va vous dire comment tourne la Lune, par exemple, par rapport à son périgée. Cet angle-là, ça s'appelle l'anomalie. C'est un peu compliqué. Tout ça pour vous dire que pour positionner la Lune à un instant donné dans l'espace, il faut connaître cet angle-là, cet angle-là, cet angle-là, l'excentricité de l'ellipse, le demi-grand axe, plus l'angle que fait la Lune avec le demi-grand axe. Six paramètres à chaque fois. Si avec la Lune et la Terre, on aurait un problème de deux corps, et ça serait rigoureux. On sait résoudre l'équation qui résout ce problème-là. C'est le problème keplérien de Kepler. En réalité, déjà pour la Lune et la Terre, on sait qu'il y a le Soleil, donc il y a déjà trois corps. Donc là, il n'y a pas de solution exacte du mouvement de la Lune. Et qu'est-ce que ça, les perturbations vont avoir une incidence sur tous ces éléments. Alors, l'incidence est différente en fonction de l'élément. L'inclinaison va osciller autour d'une inclinaison moyenne. Le nœud, lui, va se mettre à circuler comme ça. Il va tourner comme ça, mais pas doucement. Il va tourner de plus de 19 degrés par an. C'est énorme. Et le périgée, ici, il va se mettre à tourner comme ça aussi. Là aussi, il va bouger très vite, 60 degrés par an. Ça veut dire que l'orbite de la Lune, elle n'a rien du tout d'une orbite keplérienne. Et puis, l'excentricité, c'est pareil, ça va osciller autour de valeurs moyennes, et le demi-grand axe aussi. Donc, si je représente maintenant, vu de dessus, le plan de l'orbite lunaire, j'ai mon ellipse qui est ici, j'ai ma fameuse anomalie qui est ici, qui va me donner la position de la Lune par rapport au grand axe, et j'ai deux positions privilégiées, qui sont le passage au périgée, donc dans ce cas-là, la Lune va être la plus proche de la Terre, c'est 362 000 km à peu près, et l'apogée, aller au plus loin, c'est dans les 404 000 km. La différence est énorme, vous voyez. Ça vient du fait que l'excentricité est forte. Alors, vous avez vu que le retour au périgée, comme la ligne des absides avance de 60 degrés par an, eh bien, la Lune, avant qu'elle repasse ici, eh bien, il va falloir qu'elle rattrape son périgée à chaque fois. Donc la période de révolution qui ramène la Lune à son périgée, comme cet angle-là s'appelle l'anomalie, on l'appelle la révolution anomalistique. Le retour de la Lune dans la même direction par rapport à une étoile quelconque, c'est donc un tour complet par rapport à une direction fixe, ça s'appelle la révolution sidérale. L'adjectif sidéral, c'est toujours lié aux étoiles. Donc vous voyez que la loi des airs fait que, entre un passage au périgée et un passage à l'apogée, la variation de vitesse angulaire est très importante, c'est 30%. C'est énorme. C'est-à-dire qu'une Lune, quand elle est près du périgée, elle va 30% plus vite d'une manière angulaire que quand elle est à l'apogée. C'est très important. Et cette ligne-là tourne dans ce sens-là de 60 degrés par an. Donc évidemment, pour faire un tour par rapport aux étoiles, ça va faire 27 jours, 7 heures, 43 minutes et 11 secondes, enfin 12 secondes. Pour rattraper l'anomalie, eh bien, ça va être plus long, ça va mettre quasiment 6 heures de plus. Alors, comme les distances Terre-Lune et les distances Terre-Soleil vont varier, eh bien, les diamètres apparents de la Lune et du Soleil vont varier. Donc lorsque la Terre est au plus loin du Soleil, c'est-à-dire lorsqu'elle est à l'aphélie, c'est-à-dire au mois de juillet, eh bien, le diamètre apparent du Soleil fait 31,5 minutes. Quand la Terre est au périgée, c'est-à-dire au plus près du Soleil le 4 janvier, c'est de l'ordre de 32,5 minutes. La Lune, lorsqu'elle est à l'apogée, ça fait 29,3. Et la Lune, lorsqu'elle est au périgée, 33,5. Donc vous voyez, la Lune grossit plus que les disproportions sont plus grandes, c'est normal à cause de l'excentricité. Donc vous voyez que de temps en temps, eh bien, la Lune est plus grosse que le Soleil, donc dans ce cas-là, elle est capable de le cacher entièrement. Et de temps en temps, elle est toujours plus petite que le Soleil, et dans ce cas-là, elle n'est pas capable de le cacher. Ce qui veut dire que quand vous avez une éclipse au périgée, ça sera toujours une éclipse totale. Une éclipse à l'apogée, ça sera toujours une éclipse annulaire. Si on fait la moyenne de ces deux valeurs, on trouve 32. Si on fait la moyenne de ces deux valeurs, on trouve 31,4. Ça veut dire qu'en moyenne, la Lune est plus petite que le Soleil, point de vue distance. Ça veut dire que statistiquement, on verra plus d'éclipses annulaires que d'éclipses totales. Alors les phases de la Lune, je pense que vous savez tous ce que c'est. Hein. Donc le Soleil éclaire la Terre et la Lune d'une manière identique. Il fait jour d'un côté et nuit de l'autre. Lorsque la Lune est comprise entre la Terre et le Soleil, c'est ce qu'on appelle la conjonction, la nouvelle Lune. Dans ce cas-là, on ne voit rien parce qu'évidemment, il y a la lumière du Soleil et on voit la partie sombre de la Lune. Un petit peu plus tard, il y a toujours la moitié qui est éclairée et d'autres, mais on va voir une forme de croissant. Donc c'est le premier croissant de Lune qu'on va voir le soir après le coucher du Soleil. Après, on va voir un premier quartier qui a la forme d'un P. Hein, c'est la boucle du petit P. Après, on va dire qu'en 4, que la Lune est gibbeuse. C'est la forme d'une bosse. En 5, c'est la pleine Lune, c'est l'opposition. Donc elle est du côté opposé du Soleil. Donc la pleine Lune, on la voit que la nuit, que de ce côté-là. Après, on a de nouveau une lune gibbeuse. Après, on a un dernier quartier qui a cette forme-là. Hein, donc, c'est la forme du petit dé. C'est comme ça qu'on retient la forme du quartier dans l'hémisphère nord. Hein, dans l'hémisphère sud, on a la tête en bas, donc c'est inversé. Et on a un dernier croissant de lune qu'on voit le matin. Donc, les conjonctions ici et l'opposition, ça s'appelle aussi les syzygies. Alors évidemment, la période de révolution que met la Lune pour rattraper le Soleil, c'est beaucoup plus long que la période de révolution sidérale, c'est 29 jours et demi, c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle le mois lunaire. Alors je vous ai dit tout à l'heure que la ligne des nœuds tournée de 19 degrés 53 par an, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, l'orbite de la Lune n'est pas fermée, c'est-à-dire qu'elle va passer comme ça, elle va passer au nœud de l'autre côté, et puis ici, elle va pas repasser au même endroit, mais elle va repasser un petit peu avant. Hein, c'est un petit peu comme une pelote de laine. Hein, la trajectoire n'est pas fermée, donc on va avoir un mouvement de cette fameuse ligne des nœuds. Alors la période avec laquelle la Lune retourne à son nœud, ça s'appelle la révolution draconitique. Alors ça, c'est un héritage du dragon, hein, les nœuds. Le nœud ascendant et le nœud descendant de la Lune, on appelait ça la tête et la queue du dragon. C'est toujours une référence mythologique. Hein. C'est le dragon qui dévorait la Lune ou le Soleil. Alors voilà les différentes révolutions que l'on a vues. La sidérale, c'est un tour complet par rapport à une étoile. La synodique, c'est le temps qu'elle met, c'est le retour de la même phase. C'est beaucoup plus long, évidemment, il faut qu'elle rattrape le Soleil. La draconitique, c'est le repassage par le même nœud. L'anomalistique, c'est le repassage par le périgée. Voilà les éléments orbitaux de la Lune qui seraient constants, sauf celui-là qui va évoluer parce que c'est la longitude, mais tout ça serait constant si c'était un problème des deux corps. Mais comme ce n'est pas un problème des deux corps, ça se déplace. Donc ces deux éléments vont circuler, hein, là, moins 19,34 dans le sens rétrograde, et le pi qui est la somme du petit oméga plus du grand oméga, ça fait le 60 plus moins 19, vous trouvez un 40,69, donc vous avez des mouvements. Je vous ai dit que la Lune était énormément perturbée, alors ça, vous n'en tenez pas compte, c'est un peu trop compliqué, mais vous voyez ici les amplitudes des perturbations. Hein. Si je reviens sur le transparent, là, vous avez quelque chose qui est de l'ordre de 384 000 kilomètres, vous voyez que ça fluctue de 3400 kilomètres sur une période de 14 jours. C'est énormément perturbé. L'excentricité, c'est pareil, c'est 0,055. Ça varie de 0,014 sur une période de 31 jours. Donc c'est une orbite qui est extrêmement perturbée. Et voici les premiers éléments, en fin de compte, de la longitude de la Lune. Eh bien, vous avez différents termes et l'époque à laquelle ils ont été connus. Alors, je vous rappelle que la Lune a fait un demi-degré. Le Soleil, il fait un demi-degré. Si vous voulez savoir si la Lune va passer devant le Soleil, il faut que vous connaissiez sa position au demi-degré près. Sinon, vous ne savez pas où aller. Hein ? Donc, il faut que vous ayez une théorie de la Lune qui soit précise au moins au demi-degré près. Alors, le premier terme ici, c'est ce qu'on appelle l'équation du centre, c'est ce qui correspond en grosso modo à l'ellipse, hein, à l'orbite elliptique. Donc ça, c'était connu 150 ans avant Jésus-Christ, c'est très gros, hein, c'est 6 degrés plus 0,5 degrés. Ici, vous avez un deuxième terme qui s'appelle l'évection, qui a été découvert par Ptolémée au IIe siècle après Jésus-Christ. Et vous voyez, là, vous avez 1 degré 2. Donc, vous êtes absolument, c'est obligatoire de connaître ce terme-là pour être capable de prédire en un lieu donné une éclipse de soleil. Vous allez me dire, le troisième. Alors, Ptolémée, à partir de Ptolémée, on peut le faire, ça. Pourquoi ? Parce que la plus grosse perturbation suivante, bien qu'à phase 0,6, donc elle est plus grosse que 0,5, mais elle est multipliée par un sinus 2D, et 2D, c'est la différence de longitude entre le Soleil et la Lune, et ça, par chance, donc ça vaut 0 à la pleine Lune, 0 à la nouvelle Lune. Donc le terme qui était ignoré de Ptolémée n'a pas d'influence à la nouvelle Lune et à la pleine Lune. C'est grâce à ça que Ptolémée était capable, au milieu du IIe siècle, de dire en un lieu donné, il y aura ou il n'y aura pas une éclipse de Lune. Les termes suivants seront découverts beaucoup plus tard, au XVIe siècle, par Tycho Brahe. Vous voyez la lenteur avec laquelle on découvre les éléments de la Lune. Alors maintenant, les séries qui sont derrière, il n'y en a pas 5, hein, des termes, il y en a quelque chose comme 35 000. Hein. Donc, vous voyez que la connaissance du mouvement de la Lune, qui est une des choses les plus dures à faire en mécanique céleste, a été très très lente. Alors maintenant, on va voir les différents types d'éclipses. On a vu qu'on avait la Lune, le Soleil, un cône d'ombre derrière la Lune, un sommet du cône d'ombre, un axe du cône d'ombre, évidemment, et puis derrière, le prolongement du cône d'ombre. Un cône de pénombre et le sommet du cône de pénombre. Alors, la plupart du temps, comme la Lune est 5 degrés, la plupart du temps, la hauteur de la Lune au-dessus de l'écliptique, ça varie de moins 5 à plus 5. Donc la plupart du temps, eh bien, l'écliptique, ça va être la direction du Soleil, la Lune va être au-dessus ou en dessous de l'écliptique. Ça veut dire qu'en gros, la Terre va passer en dehors du cône d'ombre et du cône de pénombre, donc il n'y aura pas d'éclipse. Lorsque la Terre va rencontrer uniquement la pénombre, il va y avoir une éclipse partielle. Lorsque la Terre rencontre l'axe du cône, ça peut rencontrer devant ou derrière. Quand ça va rencontrer devant, eh bien le Soleil sera complètement caché, on aura une éclipse totale. Lorsque la Terre sera un peu plus loin par rapport à la Lune, par exemple à l'apogée, eh bien on aura une éclipse annulaire, puisque le Soleil ne sera pas complètement caché. Alors voilà les différents types d'éclipses que l'on peut avoir. Là, c'est les différents types d'éclipses totales. Alors dans une éclipse totale, vous voyez que la pénombre sur la Terre fait sensiblement 3500 km, c'est ça fait le diamètre de la Lune, grosso modo. Donc vous voyez que la pénombre ne recouvre jamais la totalité de la partie éclairée de la Terre. Ça veut dire qu'il y aura toujours des endroits pendant une éclipse où on ne verra pas l'éclipse. Alors là, vous êtes dans le cône de pénombre sans être dans le cône d'ombre, vous allez voir une éclipse partielle. Et comme on est devant le sommet, on va avoir entre parenthèses une grosse lune qui va cacher un petit soleil, entre parenthèses. Quand vous êtes ici, vous êtes exactement dans le cône, dans la bande de centralité, de totalité. Dans ce cas-là, votre ombre va cacher complètement, votre lune va cacher complètement le soleil et vous aurez une éclipse totale. La plus grande dimension possible du plan qui est ici, si je suis à peu près au zénith ici, ce n'est pas très grand, ça fait 268 km. C'est tout petit, à l'échelle de la Terre. Dans une éclipse annulaire, c'est la même chose, sauf que la Terre est plus loin par rapport à la Lune, donc on est dans le prolongement du cône d'ombre. Et bien là, on va avoir une éclipse annulaire, mais avec une petite Lune qui cache un gros Soleil, disons. Et là, vous avez une éclipse partielle. Et là, vous avez une éclipse annulaire, où évidemment, il va y avoir une partie centrale du Soleil qui va être cachée, mais sur les bords, on va continuer à voir le Soleil. Là, le diamètre, évidemment, est plus grand de la zone de visibilité de l'éclipse annulaire. Ça ne dépasse pas jamais 375 km. Mais c'est des distances qui sont toutes petites quand même. Les bandes de centralité, il faut se souvenir que c'est toujours petit. Alors, si on résume un petit peu tout ce qu'on a vu, eh bien, en fonction de l'endroit où on se trouve par rapport au cône d'ombre, on peut soit être dans le cône d'ombre, dans ce cas-là, on a une éclipse totale. Dans le prolongement du cône d'ombre, dans ce cas-là, on a une éclipse annulaire, c'est la forme d'un anneau. Là, on est en D, on va avoir une grosse lune, une éclipse partielle, une grosse lune qui cache un petit soleil, entre parenthèses, c'est pas si. Et là, on va avoir l'inverse, on va avoir une petite lune avec un gros soleil, dans ce cas de l'éclipse en E. Si on était vraiment ponctuel dans l'espace, on pourrait se situer à cet endroit-là. Dans ce cas-là, on aurait une lune qui cache exactement le Soleil. En réalité, ce n'est pas vrai, parce que la Lune, ce n'est pas une boule de billard. Il y a des montagnes et des vallées, donc il y a toujours de la lumière qui continue à passer par les vallées. Dans ce cas-là, on va voir autour de l'éclipse plein de petits points brillants, et on va appeler ça une éclipse perlée. Alors, il y a deux cas limites. C'est le cas limite dont je viens de vous parler. Quand la Terre est proche du sommet, eh bien, évidemment, tout à l'heure, dans le dessin que j'ai pris, je me plaçais en un point dans l'espace, mais la Terre, bon, elle est volumique. Hein. Donc, on va avoir des éclipses. Les éclipses perlées, elles vont commencer sous la forme d'une éclipse annulaire, puisque la Terre va commencer à rentrer dans le prolongement du cône de pénombre, et puis après, elle va rentrer donc, dans ce cône de pénombre. À un moment, elle va être juste... La ligne centrale va être complètement nulle, on va être au sommet du cône, et après on va être devant. Quand on est ici, on va se retrouver devant. Donc ces éclipses-là commencent comme une éclipse annulaire, deviennent une éclipse totale pendant une courte période de temps, puis redeviennent une éclipse annulaire. La particularité, donc, c'est que la bande de centralité, donc où on sera pour voir l'annularité ou la totalité, va être très petite, tout simplement parce qu'on est près du sommet du cône d'ombre. Donc la taille... tout à l'heure, je vous ai dit, c'était 300 et quelques quand on est par là. Ici, ça va être quelques kilomètres seulement. Ça va être très fin. Et l'autre cas particulier, c'est ce qu'on appelle les éclipses totales ou annulaires non centrales. Dans ce cas-là, ça se passe près du pôle et on voit que l'axe du cône d'ombre ne rencontre pas la Terre. Hein, donc la Terre rentre bien dans le cône d'ombre, mais ne rencontre pas son axe. Donc ça, c'est des éclipses un petit peu particulières puisqu'elles sont annulaires ou total, mais non central, parce qu'on ne rencontre pas le cône d'ombre. Alors, on peut, en analysant très simplement les orbites, en dire un petit peu plus. Hein, là, j'ai dessiné l'orbite de la Lune autour de la Terre, l'orbite du Soleil, enfin de la Terre autour du Soleil. Là, on a une Terre au périgée, donc ça va nous donner un gros Soleil, une Terre à l'aphélie, un petit Soleil. On sait que quand la Lune est au périgée, elle est toujours plus grosse que le Soleil. Mais on peut calculer sur l'orbite de la Lune partout où elle sera plus grosse que le plus gros Soleil possible. Donc c'est l'endroit sur J et L, elle sera toujours plus grosse que le plus gros Soleil possible, c'est-à-dire le Soleil avec une Terre au périhélie. Donc vous voyez que dans ce cas-là, on aura toujours une éclipse totale. La même chose, on peut calculer autour de l'apogée l'endroit où la Lune sera toujours plus petite que le plus petit Soleil possible. Donc sur toute cette portion de l'orbite, eh bien, on est certain qu'on aura une éclipse annulaire. Et puis entre les deux, ben, on ne sait pas, ça dépend de la taille du Soleil. Donc on est capable déjà de dire beaucoup de choses, et on voit bien que cet arc-là est plus grand que cet arc-là, et ça confirme qu'on va avoir plus d'éclipses annulaires que d'éclipses totales. Alors les durées maximales, hein, évidemment, comme les éclipses périgées, la Lune va très vite, ben, les éclipses totales vont être relativement courtes. Hein, donc les éclipses périgées les plus longues, ça va être de l'ordre de 7 minutes 30 secondes. Ça, c'est des statistiques faites sur une période sur 6000 ans d'éclipse, entre moins 3000 et plus 3000. Et ici, les éclipses annulaires les plus longues, évidemment, la Lune, comme elle est à l'apogée, elle ira plus doucement. Donc, les éclipses annulaires vont durer beaucoup plus longtemps. Donc, les durées maximum, là, c'est de l'ordre de 12 minutes. Alors, voilà les trois types d'éclipses que l'on peut observer. Alors, une particularité, c'est que dans une éclipse totale, on voit ce qu'on appelle la couronne. Cette couronne, on ne la voit jamais en dehors de cette occasion, puisqu'elle est 100 000 fois moins brillante que le Soleil. Donc elle n'est absolument pas visible lorsque le Soleil est visible. C'est à peu près la luminosité d'une pleine Lune. Alors les éclipses de Lune, c'est exactement la même chose, sauf que le corps occultant, c'est la Terre. La grosse différence, eh bien, c'est que pour voir une éclipse de Lune, il suffit d'être du côté de la Terre où il fait nuit. Donc vous avez déjà la moitié de la Terre qui voit une éclipse de Lune. D'autre part, comme une éclipse de Lune, ça dure en gros 6 heures à peu près. Hein. Eh bien, en 6 heures, la Terre tourne d'un quart de tour. Donc ça fait la moitié plus un quart, ça fait les trois quarts de la Terre qui voient une éclipse de Lune. Donc une éclipse de Lune, c'est visible beaucoup plus souvent à l'échelle historique qu'une éclipse de Soleil. Alors il y a trois types d'éclipses de Lune, même quatre. Il y a la Lune qui passe que dans la pénombre. Dans ce cas-là, elle est cachée par la pénombre. On a vu tout à l'heure, dans l'exemple que je vous donnais, la partie qui est cachée par la pénombre, on ne voit rien du tout. Donc les éclipses de lune par la pénombre sont quasiment invisibles. On ne s'en rend pas compte. Il y a des éclipses totales par la pénombre. De temps en temps, le cône de pénombre, comme ça, il est plus grand que la taille de la Lune. Donc on peut avoir la Lune complètement cachée, entre parenthèses, dans la pénombre. Après, on a des éclipses partielles de Lune, où là, la Lune va mordre l'ombre de la Terre, enfin, va être recouverte en partie par l'ombre de la Terre, ça s'appelle une éclipse partielle. Et puis on a une éclipse totale de Lune, quand la Lune disparaît dans l'ombre de la Terre. Alors quand je dis disparaît, c'est pas tout à fait vrai, puisque vous voyez là, c'est une éclipse de Lune, donc on voit bien l'ombre de la Terre qui mord la Lune, la Lune qui disparaît dans l'ombre de la Terre plutôt. Et au moment de l'éclipse, eh bien la Lune devient rouge. Elle ne disparaît pas complètement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a une atmosphère. Alors les rayons qui viennent du Soleil, lorsqu'ils traversent l'atmosphère, donc là, ils sont tangents, hein, puis ils vont ressortir. Alors, ils vont être courbés, pourquoi ? Ça, c'est la réfraction atmosphérique, hein, c'est ce qui fait que vous voyez le Soleil à l'horizon, alors qu'il est déjà couché, en réalité, ça remonte, la réfraction remonte, et ici, la réfraction va faire descendre les rayons. Alors ça, c'est une première chose, ce qui fait qu'il y a des rayons qui vont arriver encore sur la Lune. Et l'autre chose, c'est un phénomène d'absorption. Vous avez une absorption atmosphérique qui fait que les couleurs qui vont être absorbées, le ciel va devenir rouge. C'est le phénomène du coucher de soleil. Donc en réalité, la Lune est éclairée par les rayons rouges du soleil qui sont déviés et qui continuent à l'éclairer. Pour que la Lune soit complètement dans l'ombre de la Terre en tenant compte de la réfraction, il faudrait qu'elle soit à une distance de 40 rayons terrestres. En réalité, la Lune, elle est aux alentours de 60 rayons terrestres. Donc la Lune rentre toujours et toujours par là, et il ne fait jamais complètement noir sur la Lune au moment d'une éclipse de Lune. Alors, je reviens un petit peu sur les conditions pour avoir une éclipse. Là, j'ai dessiné une sphère céleste, j'ai mis l'orbite du Soleil apparent, j'ai mis l'origine, bon, ça n'a pas tellement d'importance, mais surtout ce qui a d'importance, c'est la fameuse ligne des nœuds qui est ici, et puis l'orbite de la Lune qui monte comme ça et qui redescend comme ça. Au moment d'une conjonction, on mesure la distance du Soleil à cette fameuse droite, c'est la droite des équinoxes, c'est l'origine des longitudes, hein, dans le plan de l'écliptique, donc dans le plan de l'orbite apparente du Soleil. Et puis, on mesure la hauteur de la Lune par rapport à cette écliptique, qu'on appelle la latitude. C'est exactement la même terminologie que sur Terre, on a longitude et latitude. Là, ça nous donne donc la distance du Soleil par rapport à cette direction origine, qui est la direction de l'équinoxe de printemps. Et puis ici, vous avez la hauteur de la Lune au-dessus du Soleil. Avec une Lune qui est ici 5 degrés au-dessus du Soleil, si la conjonction avait lieu ici, ou qui peut être ici, dans le plan de l'écliptique, si la Lune est près de son nœud. Donc vous voyez bien que pour qu'il y ait une éclipse de Soleil, on le sent tout de suite, il faut qu'au moment de la nouvelle Lune, la Lune soit près du nœud et que le Soleil soit près du nœud aussi. Donc il faut deux conditions importantes. Il faut d'une part avoir une nouvelle Lune et d'autre part que le Soleil soit dans la ligne, des nœuds. Ligne des nœuds qui tourne de 19,4 degrés par an. Donc c'est ces deux critères. On va essayer de trouver un critère en longitude et en latitude pour déterminer. Alors je vais vous montrer comment ça marche maintenant. Vous avez votre soleil. Là c'est la même chose mais avant le nœud. J'ai dessiné la lune ici, c'est une nouvelle lune. Et on va regarder le mouvement du soleil par rapport au nœud. Alors le Soleil, quand il tourne autour de la Terre, le Soleil apparent, il fait un tour en 365 jours, un quart en gros. C'est l'année julienne. Donc sa vitesse, c'est 360 degrés divisé par 365, 25. Le nœud, lui, tourne dans ce sens-là, dans le sens inverse du Soleil, à raison de 19,34 degrés par an. Donc sa vitesse, c'est 19,34 divisé par 365, 25. Donc là, j'ai la vitesse du Soleil, là, j'ai la vitesse du nœud. Si je veux donner la vitesse du Soleil par rapport au nœud, il faut que je les ajoute. Ce sont deux vitesses opposées. C'est les problèmes hein, le soleil il va par là, le nœud il va par là, c'est le problème de deux voitures qui se croisent. Si vous voulez avoir la vitesse d'une voiture par rapport à l'autre, il faut faire la somme des deux vitesses quand c'est dans le sens opposé. Donc globalement, bah, le soleil par rapport au nœud, il avance d'un degré 0,3 par jour. Combien de temps il va mettre pour repasser par un nœud? Il faut diviser 360 pour faire un tour complet. Divisé par cette vitesse, on trouve 346,63. Ça veut dire que tous les 346,62 jours, le Soleil il va passer par le même nœud de l'orbite de la Lune en tenant compte du mouvement du nœud. Bon, évidemment, comme il y a un nœud de chaque côté, si on divise ça par deux, vous allez trouver 173,31. C'est ce qu'on appelle la saison des éclipses. C'est la période avec laquelle la direction Terre-Soleil passe dans la direction des lignes des nœuds en tenant compte du mouvement de la ligne des nœuds. Alors maintenant, on va chercher un critère sur la latitude. Au moment de la conjonction, on a l'écliptique ici, donc on a le Soleil vu de la Terre qui se déplace comme ça. On a l'orbite de la Lune qui est comme ça. On a le nœud ascendant, ça fait à peu près 5 degrés, ce n'est pas l'échelle. Le Soleil il se déplace en gros d'un degré par jour. La Lune, elle se déplace en gros de 13 degrés par jour, donc elle va beaucoup plus vite. Donc ici, on a une certaine différence de longitude au moment de la conjonction, c'est-à-dire au moment de la nouvelle Lune. Eh bien, à un moment, le Soleil va avancer un petit peu, la Lune va avancer beaucoup plus vite. À un moment, on va avoir une distance minimale entre les deux centres. Eh bien, cette distance minimale, si elle est plus grande que la somme des deux rayons apparents, il n'y aura pas d'éclipse. Si c'est plus petit que la somme, il y aura une éclipse partielle. Et si c'est plus petit que la différence, il y aura une éclipse centrale. Donc, il suffit d'exprimer le minimum de distance par rapport à la latitude ici pour voir s'il y a une éclipse ou pas. Alors, il y a un calcul qui est assez complexe, que je vous passe rapidement. Et on arrive à démontrer que si la différence de latitude au moment de la nouvelle Lune est inférieure à 1,42 degrés, on est certain qu'il y aura une éclipse. C'est-à-dire qu'on est certain que la Lune va rencontrer un petit bout du Soleil. Si c'est plus grand que 1,58, on est certain qu'il n'y en aura pas. Alors ces deux valeurs sont obtenues à partir des valeurs extrêmes des diamètres lunaires et solaires. Et évidemment, il y a une zone d'incertitude. Quand c'est compris entre 1,42 et 1,58, c'est possible, mais on n'est pas sûr, ça dépend de la valeur des diamètres. Donc on est capable de définir un critère sur la latitude qui va nous dire est-ce qu'il y a une éclipse de soleil ou pas. Ce critère en latitude, évidemment, vous voyez là, ici, on a un triangle qui n'est pas rectangle, hein, parce qu'on est dans l'espace, on est sur une sphère, c'est un triangle qu'on appelle rectangle, mais un triangle sphérique rectangle, mais on peut transformer cette condition sur la latitude en une condition sur la longitude. Alors, voilà les distances, en fin de compte, hein, en fonction des endroits, on sait que si la distance entre les deux rayons est supérieure à la somme, c'est absolument impossible. Si c'est inférieur à la somme, mais supérieur à la différence, on va avoir une éclipse partielle. Et si c'est inférieur à la différence, on est certain d'une éclipse totale. Enfin, centrale, pas totale, centrale. Puis entre les deux, il y a des zones d'incertitude. On ne sait pas ici si ça va être partielle ou centrale. Alors voilà le même dessin que je vous ai montré tout à l'heure, mais en longitude. En fin de compte, on s'aperçoit qu'on a trois régions. Une région, quand, au moment de la conjonction, bien, si on est de l'autre côté, dans la partie grisée, on est certain qu'on n'aura pas d'éclipse. Si au moment de la conjonction, on est à une certaine distance du nœud, eh bien, on est certain qu'il y aura une éclipse. Alors, vous voyez que la distance, la largeur de ce bébé prime, c'est 31,33. Hein, c'est relativement grand, hein, 31 degrés. Et puis, entre ces endroits, entre B et A, et puis B' et A', on n'est pas sûr, il faudra faire un calcul plus précis. Alors, ce qui est très important, oui. Ça dépend de la théorie de la Lune que vous avez. Si vous avez une théorie de la Lune qui tient... En réalité, on ne fait plus comme ça, là, c'est très schématique, parce que je vous explique ça par rapport à des valeurs moyennes. En réalité, maintenant, avec des ordinateurs, on ne se casse pas la tête à faire ça, on regarde si ça coupe ou si ça ne coupe pas. On fait le calcul complet à chaque fois. Hein. Le but de cet exposé, là, ici, c'est de vous montrer, vous allez le voir dans le transparent suivant, hein, c'est de vous montrer qu'on a obligatoirement une éclipse de Lune au voisinage de chaque passage au nœud. C'est cette quantité-là qui est très importante, cette grandeur bébé', en fin de compte. Mais dans le temps, quand on faisait les calculs à la main, on faisait ce genre de choses. Alors, la question qu'on se pose maintenant, c'est Est-ce qu'on peut rater une éclipse à un passage au nœud, hein? Vous voyez qu'au voisinage du nœud, vous avez une zone qui fait 31,33 degrés, un arc ici, où si la conjonction a lieu là-dedans, on est certain qu'il y aura une éclipse. Le problème qu'on se pose, c'est est-ce que si j'ai une conjonction juste avant, la conjonction suivante, eh bien, une lunaison suivante, c'est-à-dire 29 jours 53 plus loin, on va de nouveau avoir une conjonction. Cette conjonction va-t-elle tomber à l'intérieur ou va-t-elle tomber à l'extérieur? Est-ce qu'on peut sauter cette chose-là? Alors là, c'est une petite règle de 3. Hein. On se rappelle qu'ici, on a 31,33. On suppose qu'on a une conjonction juste avant. On va voir si la fois d'après, on retombe après ou on retombe dedans. Hein. Une lunaison, en moyenne, c'est 29 jours 53. On a vu que le soleil, c'était 1,0386 degrés par jour par rapport au nœud. Donc on multiplie 29,53 par 1, on trouve 30,67. Et là, on est ravi. Pourquoi ? 30,67, c'est plus petit que 31,33. Ça veut dire que systématiquement, eh bien, on va tomber dedans. On ne peut pas passer par-dessus. Hein ? C'est l'histoire, vous avez une rivière qui fait 1,20 m, un petit cours d'eau. Si vous faites un pas de 1,30 m, vous passez par-dessus. Si vous faites des pas de 1,20 m, vous mettez toujours un pied dans l'eau. C'est un petit peu ça. Hein. Donc là, en fin de compte, pendant une lunaison, ben, même si vous êtes sur le bord ici, pendant la lunaison suivante, la nouvelle lune suivante, vous ne tomberez jamais de l'autre côté. Vous tombez toujours dans ce segment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez une saison d'éclipse, c'est-à-dire tous les 173,31 jours, à la nouvelle lune la plus proche de cette date-là, vous aurez obligatoirement une éclipse de soleil. Alors les éclipses de lune, on peut démontrer que les critères de visibilité des éclipses de lune, pour des raisons de symétrie, sont exactement les mêmes, à un petit facteur correctif près, que les critères pour les éclipses de soleil. Donc on a exactement quelque chose qui est parallèle avec des valeurs légèrement différentes, évidemment, qui sont dues au fait que le diamètre de la Terre, de l'ombre, est beaucoup plus grand. Mais ce qu'il faut savoir, on a vu tout à l'heure que la lunaison, c'est 15 jours. Donc si ça varie de 30,65, je crois c'était ça, en 29 jours, en 14 jours, ça va être plus petit, ça va être deux fois moins, ça va être de l'ordre de 15 degrés. Ça veut dire que si vous avez une conjonction et une éclipse de soleil ici, eh bien une demi-lunaison plus tôt, c'est-à-dire à la pleine lune plus tôt, vous aurez une opposition, donc une éclipse de lune qui sera visible. Inversement, si vous avez une opposition d'éclipse de lune, et puis, ça dépend de la position par rapport au nœud. Hein. Là, vous avez une conjonction, donc une éclipse de soleil. 15 jours plus tard, vous allez avoir une éclipse de lune. Ça veut dire que systématiquement, à chaque saison d'éclipse, vous avez une éclipse de soleil et une éclipse de lune, ou une éclipse de soleil et une éclipse de lune dans l'autre ordre. C'est obligatoire. On peut même en dire un petit peu plus. C'est que dans certains cas, vous avez les deux pieds dans l'eau. C'est-à-dire, hein, vous allez avoir une éclipse sur le bord, et puis 30 degrés plus tard, vous serez encore sur le bord. Donc là, vous allez vous retrouver avec deux éclipses de soleil. C'est assez rare parce qu'il faut que ça soit très proche du bord. Par contre, au milieu, vous allez avoir une éclipse de lune. Alors, vous comprenez bien que plus la conjonction est proche du nœud, plus le soleil va être caché par la lune. Inversement, plus l'opposition est près du nœud, plus l'éclipse va être importante. Donc quand on a ce genre de structure, eh bien les éclipses qui sont sur le bord sont des éclipses faibles de soleil, donc des éclipses annulaires, des éclipses partielles, excusez-moi, et là on a une éclipse totale de lune au milieu. Inversement, si on a deux éclipses de lune chaque bord, ça va être des éclipses de lune par la pénombre la plupart du temps. Par contre, l'éclipse qui est au centre va être une éclipse centrale. On ne peut pas dire si elle est annulaire ou totale, hein, ça dépend de la taille de la lune. C'est deux phénomènes indépendants. C'est un phénomène dynamique qui montre les positions. C'est indépendant de la taille du soleil et de la lune. Le périgée là-dedans et l'apogée ne jouent pas du tout. C'est simplement quelque chose d'angulaire. Donc pour résumer, on a à chaque saison d'éclipse, obligatoirement deux éclipses, une de lune, une soleil, ou des fois un triplé. Et quand il y a un triplé, c'est toujours une éclipse de soleil centrale entourée par deux éclipses de lune faibles ou deux éclipses de soleil partielles qui entourent une éclipse de lune totale. Après, si on regarde comment vont évoluer les éclipses les unes derrière les autres, supposons que je sois sur le bord, que j'ai une conjonction et ici j'ai une éclipse. Eh bien, le Soleil, on a vu, il se déplaçait de 30,67 par rapport au nœud en une lunaison. 6 mois plus tard, si je multiplie 30,67 par 6, je vais trouver 184. 180, ça veut dire que je suis à l'autre nœud, plus 4. Ça veut dire que si je dessine l'autre nœud, eh bien, ma conjonction suivante va être à cette décalée de 4 degrés par rapport au nœud. Donc ici, je vais avoir une éclipse un peu faible. Et puis ici, comme l'éclipse va être plus près, la conjonction est plus près du nœud, je vais avoir une éclipse un petit peu plus forte. 6 lunaisons plus tard, je vais encore avancer de 4 degrés en ayant changé de nœud. 6 lunaisons plus tard, je vais encore avoir avancé de 4 degrés. Et cette fois-ci, je vais être près du nœud. Donc plus ça va, plus les éclipses vont être importantes. Et puis après, je vais m'éloigner du nœud. Alors toujours, hein, hop. À chaque fois qu'il s'écoule 6 mois, hop, et puis ici, j'arrive sur le bord. Donc vous voyez qu'il peut y avoir des séries de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éclipses consécutives qui ont lieu tous les 6 mois. Parfois, eh bien, l'éclipse suivante va avoir lieu ici, mais parfois, il va y avoir une éclipse 5 mois plus tard, 5 mois, enfin 1 mois plus tôt qui va avoir lieu ici. Donc de temps en temps, on va voir apparaître des triplés. Et c'est à cette occasion-là qu'on a des triplés. Alors on peut résumer, alors non, avant on peut calculer combien il y a d'éclipses par an. Alors on a vu que dans une année il y a 365 ou 366 jours, la saison des éclipses c'est 173-31, donc il y a 2 saisons d'éclipses par an. Un doublé minimum à chaque saison, ça veut dire qu'au minimum il y aura toujours 4 éclipses par an. 2 de soleil, 2 de lune. 12 lunaisons, ça fait 354 jours. Donc l'écart entre les 12 lunaisons et l'année solaire, enfin la révolution de la Terre autour du Soleil, l'écart c'est 11 ou 12 jours. Donc cet écart est plus petit que l'écart qu'il y a entre une pleine lune et une nouvelle lune, une demi-lunaison. Ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir sur les bords, vous ne pourrez jamais avoir, en fin de compte, ça veut dire que vous ne pouvez jamais avoir des années avec 13 lunes, 13 pleines lunes et 13 nouvelles lunes à la fois. Vous avez l'un ou l'autre. Ça veut dire que, d'une manière générale, vous n'aurez jamais plus de 7 éclipses par an. Et quand on a ces 7 éclipses par an, on n'a que ces configurations-là qui sont possibles. C'est-à-dire 2 triplés finaux, et les triplés sont identiques à chaque fois, avec ici une éclipse toute seule, ou alors un triplé au centre et 2 doublés de chaque côté, un triplé au centre, 2 doublés de chaque côté, ou les 2 premiers triplés, ça c'est symétrique dans le temps par rapport à ça, et il n'y a que ces 6 possibilités possibles. Alors on peut résumer ça dans un gros tableau, on étudie toutes les éclipses qui ont lieu pendant, là, il y a 22 ans, on les met chaque année, alors déjà on voit qu'elles sont regroupées sur des lignes, qui correspondent au passage du Soleil par le nœud de la Lune. Ici, c'est par le nœud ascendant, ici par le nœud descendant. On voit que dans l'année, eh bien, c'est regroupé. Alors, j'explique un petit peu les notations. Quand c'est tout rond, c'est le Soleil. Là, c'est une éclipse totale de Soleil, une éclipse partielle de Soleil, une éclipse annulaire de Soleil. Pour la Lune, quand c'est tout noir, c'est une éclipse totale de Lune. Quand c'est à moitié noir, à moitié jaune, c'est une éclipse partielle de Lune. Et quand c'est tout blanc, enfin tout jaune, c'est une éclipse de Lune par la pénombre. Donc vous voyez qu'ici, on a un triplé avec une éclipse totale de Lune encadrée par 2 éclipses annulaires. Ici, où est-ce qu'il y a un triplé avec la Lune? Alors là, c'est une éclipse totale de Lune. Ici, vous avez la même chose, une éclipse totale de Lune encadrée par 2 éclipses annulaires. Et ici, vous avez une éclipse annulaire de Soleil encadrée par 2 éclipses par la pénombre de Lune. Vous voyez que là, il y a une année où il y a 6 éclipses. C'était en l'an 2000. Alors c'est assez rare de tomber sur 7. Je crois que c'est 1982 ou 87 la dernière fois. Ça se reproduira dans l'avenir, mais pas tout de suite non plus. Et on retrouve ces séries. Ici, les séries courtes. Vous voyez ici, on commence, on va le faire pour la Lune, pour le Soleil, c'est plus facile. Ici, on va avoir une éclipse partielle de Soleil. 6 mois plus tard, une éclipse partielle de Soleil. 6 mois plus tard, une éclipse centrale. 6 mois plus tard, une éclipse centrale totale. 6 mois plus tard, une éclipse centrale annulaire. 6 mois plus tard, une éclipse centrale totale. 6 mois plus tard, une éclipse partielle. 6 mois plus tard, une éclipse partielle. Ça, c'est les petites séries de 8 éclipses qui se suivent. Donc, on remarque qu'on a des éclipses tous les 6 mois, toutes les 6 lunaisons, on a une série d'éclipses. Donc quand vous connaissez la date d'une éclipse, vous regardez 6 mois plus tard, il y en a une. Enfin 6 mois. pas dire 6 mois. 6 lunaisons plus tard, vous en avez une autre. Et parfois 5, hein, parce qu'évidemment, ici, là, quand ça décroche, vous en avez 2, vous en avez une autre qui est le début d'une série, et vous avez un doublé. Alors, il y a une autre quantité pour retrouver les éclipses qu'on appelle le Saros. Alors, je n'ai pas trop insisté dessus, mais vous voyez bien que pour avoir, pour retrouver une éclipse, il faut retrouver une lunaison. Donc, il faut retrouver une période de temps. Supposez que vous ayez une éclipse un jour donné. Les éclipses suivantes auront lieu avec un multiple de la lunaison. Et il faut aussi que la Lune soit... Alors, multiple de la lunaison, ça veut dire que vous allez retrouver le Soleil et la Lune alignés, en conjonction, en opposition. Un multiple de la révolution draconitique, ça veut dire que vous allez retrouver la Lune au nœud. Donc si on trouve un multiple commun à L et à D entier, vous allez pouvoir retrouver une période de récurrence, c'est-à-dire une période à partir de laquelle vous allez retrouver une éclipse. Alors là, il y a une astuce mathématique qui s'appelle la décomposition en fraction continue qui permet, en fin de compte, de représenter ce rapport qui est la lunaison sur la révolution draconitique sous la forme de fractions. Alors la première approximation de 1 à 0,83, c'est 1 sur 1. Après, c'est 12 sur 11. Après, c'est 13 sur 12, 23 sur 36, 51 sur 47. Et il y en a une qui est particulière, qui est 242 sur 223. Eh bien, si vous faites 223 lunaisons, vous trouvez 6585,32 et des poussières. Si vous faites 242 révolutions draconitiques, vous trouvez quasiment la même chose à 3 centièmes de jour près. Ça veut dire qu'au bout de cette période, vous allez retrouver une lunaison et vous allez retrouver la Lune quasiment à la même position par rapport au nœud. Donc cette période, c'est ce qu'on appelle le Saros. Ça a été appelé à tort Saros par Edmund Halley, hein. En réalité, alors l'histoire est assez cocasse, Halley était en train de lire un texte de Pline l'Ancien dans lequel il y avait écrit que la période de récurrence des éclipses était 222 lunaisons. Alors, comme Halley connaissait la solution, et puis que dans d'autres manuscrits de Pline, c'était 223, à juste raison, il corrige dans le manuscrit de Pline en disant qu'il y a une erreur, il faut remplacer 222 par 223. Puis un petit peu plus tard, il s'intéresse à une encyclopédie byzantine qui s'appelle la Suida. Et dans cette encyclopédie byzantine, on parle d'une période calendaire, en fin de compte, sur la Lune, dans laquelle on parle de 222 lunaisons. Et là, il croit que cette encyclopédie byzantine, qui date de l'an 1000 à peu près, s'est inspirée de Pline et en copiant Pline, s'est trompé. En réalité, ça n'avait rien à voir avec Pline et c'était bien une période de 222 lunaisons. Et cette période de 222 lunaisons était appelée par les Babyloniens le Saros. Et alors là, Halley va corriger en disant non, ils se sont trompés, c'est pas 222, c'est 223. Et puis il va appeler cette période de 223 lunaisons le Saros, alors que ça n'a rien à voir. C'est une quantité qui était liée au calendrier babylonien, un calendrier lunisolaire. Ça, c'est resté. Et alors, quand on commet une erreur, en général, ça reste quasiment à vie. Hein. Il y a des gens. Alors, le premier qui s'en a aperçu, c'est Guillaume le Gentil de la Galésière, qui a corrigé. Par la suite, il y a des tas d'astronomes qui ont corrigé. Puis finalement, ça ne sert à rien, parce que quand vous allez dans un dictionnaire, vous lisez Saros, période connue des Babyloniens, etc. Alors, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'on retrouve une récurrence, alors que je vous ai dit que c'était très dur de déterminer la visibilité d'une éclipse, puisqu'il faut connaître la position de la Lune au demi-degré près. Alors, pourquoi le Saros marche ? Il marche d'une part parce que ça, c'est des multiples. Quand vous multipliez ces deux quantités, vous tombez sur quasiment la même quantité. Donc, ça vient de ce fait-là. Mais ça vient surtout du fait, c'est que cette quantité-là est aussi un multiple de la révolution anomalismique. Hein, si vous faites 239 fois la révolution anomalismique, vous voyez que vous tombez quelque chose qui est très proche, 6585,53, c'est très près de ces valeurs-là. Or, les plus grosses perturbations de la Lune sont liées à l'anomalie. Ça veut dire que non seulement vous retombez après un Saros, vous retombez à la même lunée, vous retombez sur une lunaison, vous retombez sur une Lune qui est près du nœud, qui est très près de son nœud ascendant ou descendant, mais en plus, vous retombez sur les mêmes perturbations. C'est pour ça que ça marche, sinon ça ne marcherait pas. Hein? Donc là, ces deux quantités-là, ce n'est pas suffisant, il faut aussi que ça soit un multiple de la révolution anomalismique. C'était la partie la plus complexe. Alors voilà les éclipses qui correspondent au Saros de l'éclipse de 99. Hein, ben vous voyez qu'ici, 19 ans avant, c'était en 1981. Donc ça, c'est la ligne de centralité de l'éclipse. Là aussi, c'est la ligne de centralité. Donc c'est l'endroit où il faut aller pour voir l'éclipse totale ou annulaire. Et toutes ces éclipses sont séparées de 18 ans 11 jours. Alors qu'est-ce qu'on remarque ? Bien, de 18 ans 11 jours à l'autre, il y a un décalage de quasiment 120 degrés. Ça, c'est le 0,33 que vous avez ici. 0,33, ben, c'est 0,32, c'est quasiment 0,33, c'est un tiers de jour. Donc ça se décale de 120 degrés, 3 fois 120 degrés, ça fait 360 degrés. Et en plus, ça va se décaler en longitude. Hein, donc ça, on peut faire exactement les mêmes études que je vous ai montrées sur une période de les séries courtes. On peut faire des séries longues de Saros. Là, je ne vous en parle pas parce que c'est un peu long à faire. Mais on peut définir des séries longues de Saros. C'est des périodes qui s'échelonnent sur 2500 ans, 3000 ans. Et on voit que ça traverse la Terre du nord au sud ou du sud au nord en fonction du fait que c'est au nœud ascendant ou au nœud descendant. Et c'est toujours au même nœud. Donc ça, on a cru que les Babyloniens connaissaient cette période, ce qui n'est pas vrai. Alors maintenant, on va faire un petit peu d'histoire. Voilà, les futures éclipses de soleil entre 2000 et 2025, ce sont les éclipses totales. Et vous voyez, vous en avez qui sont très fines. Ce sont les éclipses mixtes. Les bandes de centralité sont extrêmement fines. Alors vous voyez, sur 25 ans, la probabilité de voir une éclipse en France, c'est zéro. Hein, une éclipse totale en France, il n'y en a aucune. Il y en a une en 2026 qui va passer juste sur l'Espagne ici. Les éclipses annulaires, c'est pareil. Alors qu'est-ce qu'on remarque ? Bah, que les taches sont plus grosses au pôle, c'est normal, puisqu'on projette un petit peu d'une manière tangentielle à la surface du globe. On voit que les bandes de centralité sont plus larges. Mais c'est toujours pareil, en France, zéro. Hein, donc la visibilité en France, voilà, ça c'est toutes les éclipses qui ont été visibles du 16e au 18e siècle. Quand c'est en vert, c'est des éclipses totales. Quand c'est en orange, c'est des éclipses annulaires. Vous remarquez que les éclipses annulaires sont souvent plus larges que les éclipses totales. Alors là, c'est le bout de l'éclipse, hein, ça s'arrête ici, c'est la limite. Ça, c'est au 19e et au 20e siècle. Ça, c'est l'éclipse de 99. Ça, c'est une éclipse perlée, hein, mixte. C'est celle de 1912 qui passait à côté de Paris. Ça, c'est les éclipses du 21e siècle. Alors, vous voyez, on n'est pas très gâté. Hein. Il faudra attendre pour une éclipse totale 2081. On sera à la retraite depuis longtemps. Et puis, pour l'éclipse annulaire, c'est 2059, hein, les premières. À Poitiers. Alors, je vous ai fait les éclipses à Poitiers. Alors vous allez voir qu'on ne voit pas beaucoup d'éclipses. Je vous ai fait toutes les éclipses visibles à Poitiers entre l'an 1 et l'an 3000, donc sur 3000 ans. Donc sur cette période-là, il y a 7083 éclipses. Si je considère que les éclipses annulaires totales et mixtes, il n'y en a plus que 4565. Et des éclipses non centrales, il y en a 53. Donc parmi toutes ces éclipses-là, donc sur les 7083, à Poitiers, on va en voir sur ces 3000 ans 1240, c'est-à-dire 17%. Si on s'intéresse qu'aux éclipses centrales, on va en voir sur les 4565, on va en voir 984. Ça représente à peu près 21-22%. Les éclipses centrales, c'est-à-dire on va avoir une éclipse annulaire ou une éclipse totale, il n'y en a plus que 18. Ça représente plus que 0,04%. C'est très rare. Hein. Et là-dedans, il va y avoir 8 éclipses totales et 11 éclipses annulaires. Donc vous voyez, si vous restez pendant 3000 ans à Poitiers, vous ne verrez que 18 éclipses annulaires au total. C'est très très peu. Hein. Alors voilà les dernières éclipses annulaires et totales visibles à Poitiers. Alors vous voyez, vous n'êtes pas gâté parce que la dernière éclipse totale que vous voyez à Poitiers, c'est 1485. Et la prochaine, ça sera 2160. Hein. La dernière éclipse annulaire visible à Poitiers, c'était 1764. Et la prochaine, ça sera 2220. Donc, ce sont des phénomènes très, très rares. En moyenne, on estime qu'on a en un lieu donné, c'est des statistiques assez globales hein, sur toute la planète, c'est de l'ordre de 375 ans et une éclipse annulaire de les 274 ans. Donc, c'est plus, il y en a un peu plus, c'est normal. Hein. Donc vous voyez la statistique sur Poitiers, bah, elle est exacte, c'est 375, c'est exact. Par contre, si je fais la moyenne, c'est tous les 300 ans en moyenne. Mais ça, c'est des moyennes, hein, ça veut quasiment rien dire, hein, puisque là, vous voyez, vous allez attendre entre deux éclipses totales quasiment 6 siècles. La prochaine éclipse visible en France, hein, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, on n'est pas gâté. Hein, la prochaine éclipse qui sera visible sur la France, ça sera en 2011, ça sera une éclipse partielle à 60%. Et puis après, il faudra attendre 2015 pour en avoir une à 75%. Alors c'est ce que je vous ai dit, l'éclipse la plus intéressante dans le futur, ça sera celle-ci qui sera totale, mais pas sur la France, mais sur l'extrême nord de l'Espagne. Donc si vous allez à la frontière espagnole du côté de Biarritz, là, vous aurez un petit peu en dessous une éclipse totale de soleil à voir en 2026. Sinon, bah, faut vous déplacer. Par contre, les éclipses de lune, si je fais le même calcul, bah, vous avez 7204 éclipses de lune. Eh bien, sur le total de ces 7204, si je considère que les éclipses qu'on observe, parce que les éclipses par la pénombre, en général, on ne les voit pas, il y en a plus de 4621, mais sur ces 4621, on en a vu ou on en verra 3249, c'est-à-dire 70%. Alors vous voyez la comparaison, hein, tout à l'heure c'était 0,04% les lignes de centralité, et là vous avez 70%. Ce qui fait que les éclipses de lune sont tout à fait courantes. Alors l'observation d'une éclipse, la vitesse de l'ombre sur la Terre, c'est la combinaison de la vitesse de la Lune et de la vitesse de la Terre. Alors la Lune, c'est facile à se rappeler, elle se déplace en gros de son diamètre en une heure, comme a fait 3500 km en une heure, ça vous fait 1 km par seconde, donc 1000 mètres par seconde. Ça va assez vite. La surface de la Terre, la vitesse de la surface de la Terre, ça dépend où vous êtes. Hein. Si vous êtes à l'équateur, ben vous faites toute la circonférence de la Terre en un peu moins de 24 heures, donc vous faites en gros du 500 mètres par seconde. Si vous êtes à une latitude de 48 degrés, donc ça correspond à peu près à la latitude milieu de la France, vous faites du 30 mètres par seconde. Si vous êtes au pôle, ben vous n'avancez pas, vous faites 0 mètre, hein, puisque vous ne tournez pas. Comme la Terre tourne, alors il ne faut pas se tromper, la Terre tourne d'ouest en est, la Lune passe devant le Soleil d'ouest en est, donc dans ce cas-là, les deux vitesses sont dans le même sens. Hein, c'est deux voitures qui vont dans la même direction, donc leur vitesse relative, c'est la différence des vitesses. Donc si vous êtes à l'équateur, vous faites du 500 mètres par seconde. L'ombre fait 500 mètres par seconde à la surface de la Terre. Si vous êtes à notre latitude, ça fait du 300 mètres par seconde. Et si vous êtes au pôle, ça fait du 1000 mètres par seconde. Ça veut dire que pour suivre l'ombre en avion, il faut qu'il y ait des éclipses à très faible latitude. Hein, puisque à la latitude de la Terre, vous ne suivez pas l'ombre. Hein. En 1999, c'était le nord de la France, on a essayé de la suivre en Concorde, on ne peut pas. Hein. C'est plus que Mach 2, c'était absolument impossible. Donc le Concorde a été au devant de l'éclipse, et a été rattrapé par l'ombre et doublé par l'ombre. Alors il a quand même observé l'éclipse un petit peu plus longtemps que quelqu'un qui aurait été à Terre, mais il n'y a pas de suivi total de l'éclipse. Par contre, en 72 ou 75, je ne sais plus, le premier Concorde 001 avait été modifié, on avait enlevé sur le dessus du Concorde, on avait mis un dôme qui permettait de suivre l'éclipse, et il avait suivi l'éclipse pendant plus de 40 minutes. C'était sur le Tchad à l'époque. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant une éclipse ? Bien, il y a plein de phénomènes. Hein. Quand vous coupez le courant, la lumière, bien, la température baisse. Hein. Alors, ça commence à baisser quand il y a 80% du disque solaire qui est éclipsé. C'est très difficile, la baisse de température, à prédire, hein, puisque ça dépend de plein de paramètres, hein, la couverture nuageuse, l'humidité de l'air, la nature du sol, le vent, la teneur en eau du sol et la hauteur du soleil. L'effet, évidemment, est maximal quand le ciel est clair, qu'il n'y a pas de vent, clair et sec. L'humidité, bah, s'il y a un refroidissement très important, c'est la même chose que le matin ou le soir, il y a de la rosée, hein, ça dépend de la pression de vapeur d'eau saturante, vous pouvez avoir de la rosée sur le sol. Le vent, eh bien, ça dépend du régime du vent. Hein. Ce qui est le plus significatif, ce qu'on voit, c'est au bord de la mer, hein, quand il n'y a pas beaucoup de vent, ou quand il y a simplement une brise de mer, la brise de mer se met à disparaître parce que les différences de température océan-terre ont tendance à diminuer. De temps en temps, on observe un vent d'éclipse qui est dû à la différence entre la totalité et la pénombre, entre l'ombre et la pénombre, mais c'est quelque chose de très rare. Quand par malchance, on va avoir une éclipse et qu'il y a plein de nuages, eh bien évidemment, on ne voit pas la couronne, mais la baisse de température, elle est vraie aussi. Donc, il y a des changements un petit peu de nébulosité. Alors, des fois, c'est très bien parce que vous avez plein de nuages au moment de l'éclipse. D'un seul coup, hop, ça se lève et vous avez de la chance, vous voyez la couronne. Des fois, c'est l'inverse. Vous voyez juste la couronne. Vous arrivez à percevoir l'éclipse juste avant la totalité, puis au moment de la totalité, il y a un petit coup de vent, il y a plein de nuages et vous ne voyez plus rien. Donc ça, c'est un petit peu le hasard. Hein. Alors, les astronomes, ils ne se cassent pas la tête, ceux qui veulent observer les éclipses, ils vont dans les déserts. Encore faut-il que la bande de centralité traverse un désert. Alors le rayonnement, il n'y a vraiment que quand c'est une éclipse totale que ça tombe à zéro, puisque dans ce cas-là, on ne voit plus le soleil. Alors voilà tout ce qu'on voit. Hein. On voit une baisse de la luminosité, une chute de la température. Les animaux, évidemment, ils croient que c'est le soir, donc les poules rentrent au poulailler. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Hein. Je ne sais pas si vous avez vécu une éclipse totale, mais c'est un moment inoubliable. Les gens se taisent, les animaux. Moi, en 99, on était dans une ferme. Il y avait à peu près 200-300 personnes avec nous. Il y avait les chiens qui n'arrêtaient pas d'aboyer et tout. Au moment de l'éclipse, d'un seul coup, le silence total. Alors on voit les fleurs qui se ferment, etc. On voit parfois des ombres volantes. Alors moi, je ne les ai jamais vues, mais il faut vraiment être observateur. Les ombres, c'est une espèce d'ombre qui viennent. Ça provient du fait que la turbulence n'est pas la même en haute altitude et en basse altitude. Donc on voit apparaître des ombres volantes, mais c'est très dur à voir. Alors ce qui est intéressant, c'est de se mettre dans la direction de l'arrivée de l'ombre, parce qu'on voit l'ombre qui arrive à toute vitesse sur vous. Ça aussi, je l'ai vu, c'est très intéressant. L'obscurité, évidemment, c'est intéressant. Une fois qu'il fait noir, presque noir, on commence à voir les étoiles et les planètes, et éventuellement des comètes, s'il y en a, qui sont visibles. Alors voilà les différentes phases que l'on voit. Hein. La phase partielle, on pouvait faire des sténopées qui renvoient l'image du soleil éclipsé, donc on voit des 10 minutes avant la totalité, donc il y a un assombrissement sans le rougissement habituel du soir. Ça vient du fait que le soleil, bon évidemment si c'est le soir, il y a un rougissement, mais si le soleil est haut dans l'atmosphère, il n'y a pas de rougissement. Les ombres sont bizarres. Pourquoi ? Parce que vous êtes plus éclairé par un corps qui est sphérique, mais par un corps qui est un croissant de soleil, en fin de compte. Donc vous n'avez plus la symétrie dans l'éclairage. 5 minutes avant la totalité, on voit les ombres volantes, hein, à peu près. Après, une forte dissymétrie dans la pénombre solaire. 30 secondes avant la totalité, alors là, ça chute très rapidement la luminosité. Et puis au voisinage des contacts, ce qu'on appelle les perles de diamants, hein, c'est la lumière qui continue à passer par les vallées qui sont sur le limbe lunaire. Hein. Des fois, ça fait des chapelets. Alors, ça s'appelle les points de Bailly, ça. Après, on a un flash de la chromosphère. C'est la couche qui recouvre la photosphère. Puis après, on commence à voir la couronne, qui, elle, est beaucoup plus chaude que la photosphère. Hein. La couronne, c'est 1 ou 2 millions de degrés, alors que la photosphère, c'est dans les 6 000 degrés. Alors après, on voit des phénomènes coronaux. Donc, c'est ce qui se passe dans la couronne. Apparition de comètes et d'astéroïdes, je l'ai dit. La Lune est plus sombre que le ciel nocturne. La Lune est vraiment noire à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle l'effet de Mach, on pense, on n'en est pas sûr. Et des fois, on voit la lumière cendrée. C'est le clair de terre sur la Lune. Alors, les sténopées, c'est ça. Vous faites un petit trou, puis vous avez un petit trou dans une feuille de papier, puis vous avez l'image. Donc là, c'est quelqu'un qui s'amusait simplement avec ses doigts. Ici, ils avaient fait des trous pour représenter Cassiopée. Ça, c'est l'Escorial, c'était l'éclipse annulaire qui avait lieu en Espagne. Vous voyez que les ombres, les trous ici, vous avez le croissant lunaire, solaire qui est repris ici, partout. Alors, vous pouvez vous amuser, hein, évidemment, avec une petite paire de jumelles, vous faites des petites choses amusantes. Alors ça, c'est amusant aussi, c'est votre ombre et votre pénombre. Peu de temps avant la totalité, vous êtes éclairé par un croissant de soleil. Dans un croissant de soleil, on est habitué à avoir une symétrie totale. Quand vous êtes éclairé par un soleil total, votre taille de pénombre est la même partout. C'est-à-dire que si vous mettez votre main près d'un mur, alors là, le vidéoprojecteur est un peu haut, vous voyez qu'ici, plus je m'approche d'ici, plus c'est net. Plus je m'éloigne, plus le bord de ma main va être flou. Le flou, ça correspond à la pénombre. Mais là, je suis éclairé par une lampe circulaire. Maintenant, si je suis éclairé non plus par une lampe circulaire, mais par par un croissant, on peut dire que ça est éclairé par une fente, en fin de compte, eh bien, on voit bien que la pénombre, dans la direction où la fente est grande, eh bien, il va y avoir du flou. Et puis dans la direction où la fente est petite, il va y avoir beaucoup moins de flou. Et là, vous voyez, les mains sont dans deux directions perpendiculaires. Eh bien, vous voyez qu'ici, le bord de l'ombre est net. Par contre, le bout des doigts est flou. Inversement, ici, le bord des doigts est flou et le bout des doigts est net. Donc ça, c'est une petite expérience amusante à faire. Alors ça, c'est la fameuse éclipse de 1912 qui passait non pas à Paris, mais à côté de Saint-Germain-en-Laye. Alors vous voyez la taille de la ligne de totalité. Hein. L'été total ici, hein, c'est vraiment tout petit. Hein. Ça, c'est les gens qui observaient l'éclipse en avril 1912. Ça, c'est des clichés de l'époque. Alors, voilà, ça, c'est l'éclipse de 99. Il fait vraiment nuit. Hein, on voit la couronne ici, et puis on voit ici Vénus. Ça, c'est l'éclipse de 99 à Paris, à 99,4%. Hein, donc, il reste un fin croissant de soleil. Alors, voilà. Ça, c'est une éclipse d'Angola de 2001. Ça, c'est mes collègues de l'Institut d'astrophysique. Alors, à l'heure actuelle, pour observer le soleil, on a ce qu'on appelle des coronographes. C'est-à-dire qu'on met dans un instrument, on met un cache qui cache le soleil. Comme on arrive à cacher le soleil, on arrive à voir la couronne. Le problème, c'est que si on cache que la chromosphère, eh bien, il y a trop de chaleur qui rentre dans l'instrument et l'instrument est détruit. Donc, on est obligé de mettre des caches qui sont relativement gros. Alors là, vous voyez, ça, c'est un cliché qui a été pris par la sonde SOHO, qui est un satellite artificiel qui observe en permanence le soleil, et la taille du cache de ce qu'on appelle le coronographe, elle est ici, c'est ça, cette valeur-là. Ça veut dire qu'avec SOHO et avec le coronographe, on est capable d'étudier la couronne solaire qu'ici, qu'à l'extérieur du cache. Et ici, voilà un cliché qui a été fait au même instant, hein, en Angola, et cette fois-ci avec un filtre, alors ça s'appelle un filtre radial, c'est-à-dire que la quantité de lumière qui passe à travers ce filtre, elle est plus faible vers le centre que vers le bord, ce qui permet d'avoir la totalité. Avant, on faisait plein de photos puis des montages, maintenant avec ces filtres-là, on arrive à voir la baisse de luminosité, et l'augmentation de luminosité quand on va vers le soleil est compensée par le filtre. Eh bien, vous voyez qu'une éclipse totale permet de voir tout ça en plus. Hein, je l'ai transposé ici. D'où l'intérêt pour les astronomes d'aller observer les éclipses totales. Puisque toute cette partie de la basse couronne, elle n'est absolument pas observable avec des instruments terrestres ou spatiaux. Tout simplement parce que, pour des raisons thermiques, on est obligé d'en cacher un gros bout. On ne peut pas se dire « on va cacher que ça ». Alors ça, une éclipse polaire, ça va être très vite. Hein. Au pôle, c'est allongé. Hein. Vous avez quelque chose comme ça. Voilà, c'est très rare. Alors les éclipses anciennes, alors là, je vais terminer là-dessus. Ça, c'est une éclipse qui a été observée à Babylone. ça correspond au 26 septembre 322 avant Jésus-Christ. Donc, il a fallu... Alors, on a des tas d'éclipses comme ça. Alors ça, je passe. Ça, c'est les premières cartes d'éclipse qui ont été faites. Alors, pour avoir les premières cartes d'éclipse, faut déjà, d'une part, avoir une bonne théorie de la Lune et du Soleil, et d'autre part, avoir une bonne connaissance des positions géographiques. Hein. Alors ça, il faut attendre l'époque d'Halley. Hein. C'est Halley qui a fait les premières sur l'Angleterre, et ça, c'est l'éclipse de 1724 qui a été observée à Paris, notamment. Alors voilà une autre tablette babylonienne. Là, c'est très précis. On vérifie que cette éclipse, ça correspond à celle du 15 avril 136 avant Jésus-Christ. Or, si on s'amuse à tracer cette éclipse, en ne tenant pas compte du ralentissement de la Terre, eh bien, l'éclipse, ça passe ici, au lieu de passer sur Babylone. Pourquoi ? Eh bien, parce que la Terre ralentit. Donc, on est obligé, lorsqu'on va dans le passé, de tenir compte du ralentissement terrestre. C'est-à-dire que la partie de la Terre qui était sous l'éclipse, ben, si la Terre tournait d'une manière uniforme, ça aurait été ça. Mais dû au ralentissement de la Terre, c'est ça. Donc ces éclipses anciennes permettent de mesurer le ralentissement de la Terre. Donc vous voyez, là, sur cette période, on est en 136 avant Jésus-Christ, donc en moins 135. l'écart entre les deux échelles de temps, qui est l'échelle de temps due à la rotation de la Terre qui n'est pas uniforme, c'est 3h14. C'est comme ça qu'on calcule les différences de temps dans le passé entre les différentes échelles de temps, entre le temps, un temps uniforme et le temps de la rotation de la Terre. Alors, quelques événements importants liés aux éclipses. Hein. 1836, c'est Bailly qui donne la première description des points brillants qui apparaissent au début et en fin de totalité. En 42, donne le nom à la couronne solaire et attribue la couronne, couronne au soleil et non pas à la lune. Je vais vous montrer quelques gravures après. 51, première photographie d'une éclipse de soleil, 1851. 1860, première photographie montrant les protubérances solaires. Et les protubérances appartiennent bien au soleil et non pas à la lune. Alors au début, quand on voyait la couronne, on ne savait pas trop où était la couronne. Est-ce que c'était un phénomène météorologique qui était lié à l'atmosphère terrestre? Est-ce que c'était un phénomène lié à l'atmosphère de la Lune? Ou est-ce que c'était un phénomène lié à ce qu'il y avait autour du Soleil? Alors, au début, on pensait que c'était un phénomène atmosphérique. Kepler, lui, en faisant des mesures, il a supposé que c'était quelque chose qui était lié à la Lune, à l'atmosphère lunaire. Donc, très tardivement, hein, même jusqu'en 1842, même Arago proposait d'appeler ça la couronne lunaire. Alors voilà les interprétations de la couronne, il y en a eu plusieurs. Alors pourquoi on ne savait pas trop d'où ça venait? En fin de compte, vous voyez là, c'est la même éclipse décrite. À l'époque, on n'avait que le dessin quasiment, les daguerrotypes, il y en avait eu, mais ce n'était pas tellement transportable. Donc les gens se déplaçaient à la surface de la Terre pour voir l'éclipse et puis ils dessinaient ce qu'ils voyaient. Et là, vous voyez la même éclipse décrite par deux personnes, là c'est Temple qui voit ça, lui voit tous ces trucs-là, et puis Chetsi, lui, il voit ça. Donc c'est complètement différent. Ce qui laissait penser que c'était quelque chose qui était lié à la Lune. Et tant qu'on n'a pas fait de photo, alors là, ce n'est pas vraiment la photo, mais c'est une vue d'après une plaque photographique, et alors là, on s'est aperçu qu'évidemment, les détails qui étaient ici étaient les mêmes pour tous les lieux sur la Terre, donc ça ne pouvait pas appartenir à la Lune, sinon il y aurait eu des phénomènes de parallaxe, on n'aurait pas vu tout à fait la même chose des différents endroits de la Terre. Donc là, on était pratiquement sûr que ce qu'on voyait autour de la Lune ici, ce n'était pas l'atmosphère de la Lune, c'était quelque chose qui était autour du Soleil. Alors, cette chose qui est autour du Soleil, après, on a fait de la spectroscopie, et on l'a analysée, et puis à un moment, on a découvert une raie d'un corps qu'on ne connaissait pas. Alors, comme le Soleil, c'est Hélios, on a appelé ce corps l'hélium. Donc, l'hélium a été découvert sur le Soleil bien avant d'être découvert sur la Terre. Hein, sur la Terre, c'est 1895, sur le Soleil, c'est en 68. Un peu plus tard, en 69, on a découvert encore une raie verte qui était bizarre, qu'on ne connaissait pas sur Terre. On l'a appelée le coronium. Ah, pas de chance, ce n'était pas un nouveau corps, c'était simplement c'était du fer qui était fortement ionisé. Donc, ça décalait les raies, mais c'était une raie du fer. 72, première observation des plumes. Alors après, 1905-1908, on essaie, vous savez que le périhélie de Mercure avait une avance qu'on n'arrivait pas à expliquer, on a cherché s'il n'y avait pas une dixième planète qui aurait été proche du Soleil et qu'on n'aurait jamais vue. On ne l'a jamais trouvée, évidemment. 1919, on a essayé de vérifier la relativité générale en regardant le décalage des rayons lumineux au voisinage des positions des étoiles qui étaient proches du Soleil. Là, ça a relativement bien marché. En 1930, Bernard Liot invente le coronographe, c'est-à-dire qu'on pouvait observer la couronne solaire, mais quand même loin du Soleil, grâce à cet instrument. En 1995, c'était le premier lancement d'un satellite. Alors ça, c'était l'article du Times de 1919, où on voit le décalage des positions des étoiles dû à la relativité générale. Voilà. Alors, dernière chose avant de terminer, on n'observe jamais le Soleil à l'œil nu, hein, même le soir. Hein, si vous amusez à faire des photos de coucher de Soleil, si le Soleil est encore un peu haut sur l'horizon, ce n'est pas tellement conseillé de mettre l'œil derrière l'appareil photo, même l'appareil photo derrière le Soleil, parce que ce qui chauffe dedans, ce n'est pas les UV, c'est les infrarouges. Et les infrarouges, votre rétine est insensible à la douleur, donc vous cuisez le fond de votre œil et vous ne sentez rien du tout. Et vous vous réveillez le lendemain matin avec une grosse migraine. Et puis la photo du Soleil dans le fond de l'œil, et puis vous l'avez à vie. Hein. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Donc à chaque fois que vous observez une éclipse ou le Soleil, à chaque fois, il faut mettre des lunettes spéciales ou des filtres spéciaux qui arrêtent les infrarouges. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Oui, ça c'est quand vous allez observer une éclipse de soleil. Alors ça c'est typique, les gens qui vont observer une éclipse de soleil, vous restez plusieurs heures en plein soleil et vous chopez des gros coups de soleil. Bon, c'est un peu dommage d'aller voir une éclipse de soleil et de revenir un peu brûlé. Hein. C'est pour ça, trouver un endroit à l'ombre, c'est des choses qu'on oublie tout le temps. Hein. Quand vous allez à la plage, vous pensez à votre parasol, mais en général, quand vous allez sur des sites pour observer le soleil, personne n'amène son parasol et sa crème solaire parce que bon, ça ne fait pas couleur locale. Oui, ça paraît... Voilà. Donc, deux livres. Hein, ça, c'est le livre de Pierre Kouchmi qui date un peu, mais qui vous parle des éclipses de soleil d'un point de vue un peu d'astrophysicien. Et ça, c'est le livre que j'ai fait à l'Institut de mécanique céleste il y a 2-3 ans, dans lequel vous avez tout un cours sur les éclipses, ce que je vous ai raconté avec beaucoup plus de détails.
Bien, à présent, si vous avez d'autres questions à poser, profitez-en, oui.
Mais c'est juste que j'ai pas compris comment ça se fait que le Périhélie et l'aphélie, ça tombe le 4 janvier et le 4 juillet, je crois. Oui. Ça tombe pas en même temps que les équinoxes, c'est bizarre.
Il n'y a aucune raison. Non, il n'y a aucune raison que vous ayez... La ligne des équinoxes, c'est l'intersection de deux plans. La ligne des équinoxes, c'est le plan de votre écliptique, et puis vous avez le plan de l'équateur terrestre. Bon, ces deux plans, ils se coupent suivant une droite. Cette droite, ça s'appelle la droite des équinoxes. Bon, il n'y a aucune raison que la droite des équinoxes soit... confondu avec celle des... Alors, je vais vous montrer ici. Je vais remonter ici. Qu'est-ce qui lui arrive ? Non, il n'y a aucune raison. Alors, ça arrive par moment, puisque votre droite des équinoxes, votre pôle, il fait un cône, c'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes, en 26 000 ans. C'est-à-dire qu'il avance en gros de 50 minutes par an. Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon. Votre ligne des absides, c'est-à-dire votre grand axe de l'orbite de la Terre, elle aussi, il y a une avance du périhélie. Ça va tout doucement, c'est 11 secondes par an à peu près. Donc à une certaine époque, dans le passé, il y a correspondance entre les deux. Mais en réalité, la ligne des équinoxes et la ligne des absides, le grand axe, sont confondus tous les 21 000 ans, à peu près. Hein? Le fait que les deux tournent. Hein? Donc, à un instant donné, statistiquement, bon, ça arrive une fois tous les 21 000 ans que vous ayez les deux lignes confondues. Hein? C'est deux phénomènes différents, hein? Complètement différents. Hein? Dans un cas, vous avez un phénomène qui est la précession des équinoxes, qui est lié au mouvement de toupie, enfin de précession de l'axe de la Terre. Hein? Donc, comme la Terre, l'axe précesse comme ça, ben l'intersection qui est l'intersection du plan de l'écliptique avec l'équateur, ben votre équateur y tourne aussi, donc la droite qui est l'intersection des deux se met à tourner aussi. Il n'y a aucune raison a priori que... Alors justement, votre fameuse droite des équinoxes, si ça remonte, je vais vous le montrer tout de suite, diaporama affichage... J'ai plus de place, mais enfin bon. C'est le plan. Je voudrais remonter dans mon diaporama, mais il ne veut pas. Ah, si, ça y est. C'est tout au début. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà. Parce qu'en réalité, je vous ai caché plein de choses. Oui, alors c'est où là, 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 là. sens. Voilà, le mouvement de la Terre, c'est ça. Voilà. Bien. Vous voyez qu'ici, la ligne des absides, elle est ici. C'est le 4 janvier. Ici, vous avez votre ligne des équinoxes, qui est comme ça. Vous avez la ligne perpendiculaire à la ligne des équinoxes, ça s'appelle la ligne des solstices. Donc le 4 janvier, la Terre passe à son périhélie. Donc c'est le moment où la Terre est le plus près du Soleil. Le temps que met la Terre à passer du solstice d'hiver à l'équinoxe de printemps, c'est l'hiver. Ben, vous voyez qu'ici, il y a le périhélie qui est ici, donc la Terre va plus vite. Donc l'hiver est plus court, c'est la saison la plus courte. Inversement, ici, pour aller du solstice d'été à l'équinoxe d'automne, c'est l'été. La période d'été, le 4 juillet, comprend l'aphélie, et à ce moment-là, la Terre va plus doucement. C'est pour ça que la période la saison la plus longue, ça va être l'été. Et vous avez plusieurs jours de décalage. Trois jours. Du soleil, il fait plus chaud. Oui. Alors, ce qui chauffe sur la Terre, c'est pas la distance du soleil, c'est la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon. Hein. Oui, c'est le. D'ailleurs, ça montre bien que c'est pas la distance de la Terre qui joue, parce que si c'était la distance de la Terre qui jouait, il devrait faire plus chaud le 4 janvier. Alors ça, je pense que vous êtes tous convaincus qu'il fait plus beau le 4 juillet, enfin plus chaud tout au moins le 4 juillet que le 4 janvier. Mais ça tourne tout ça. Hein. Donc quand vous regardez les textes anciens des Grecs, eh bien à l'époque d'Hipparque par exemple, eh bien l'axe des absides, enfin c'est surtout l'équinoxe était beaucoup plus par là, et la saison la plus courte c'était l'automne. Et c'est ce qui a fait abandonner les systèmes. Les Grecs, eux, ils expliquaient tout par des cercles et des vitesses uniformes. Bien évidemment, si vous mettez une vitesse uniforme, bon alors. On transpose soleil et terre, mais si vous faites tourner le soleil autour de la terre d'une vitesse uniforme, ben vos quatre saisons devraient avoir la même longueur. Et comme les saisons n'avaient pas la même longueur, il fallait trouver autre chose. Et les Grecs ont eu l'idée de garder un mouvement uniforme, mais au lieu de mettre la terre au centre du cercle, ils l'ont excentré, ce qu'on appelle un excentrique. Et dans ce cas-là, ben la vitesse n'est plus uniforme. Mais ils trichent, parce qu'ils ne mettent plus la terre au centre du monde. Hein ? Ça s'appelle sauver les phénomènes chez les Grecs. Et ça, c'était des grands spécialistes, les Grecs, ils ont triché sans arrêt, mais ils ont gardé en permanence des combinaisons de mouvements uniformes. Après, ils ont inventé un autre truc qui s'appelle l'écan, qui était encore pire, parce qu'il faisait tourner le cercle d'un mouvement uniforme par rapport à un point qui n'était plus le centre du cercle. Mais enfin, bon, ça marchait. Il y a des périodes. Il y a des périodes où c'est plus ou moins propice de voir plus d'éclipses en des régions données. Par exemple, il y a une période grecque où il y a eu plus d'éclipses qu'à une autre. Mais statistiquement, sur une grande période de temps, il n'y a pas de raison. Hein. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que vous pouvez, quand vous regardez les cartes de visibilité, vous pouvez avoir deux éclipses. Par exemple, en Chine, là, vous avez une éclipse l'année dernière, vous en avez une éclipse cette année. Donc à un an d'intervalle, vous allez avoir deux éclipses totales. En Angola, c'était pareil. Le problème, ce n'était pas la même saison, alors ce n'est pas forcément bon pour les astronomes. Mais la plus grande difficulté pour les astronomes, c'est de trouver un désert et une époque où il fait beau. Parce que vous pouvez avoir un désert, mais s'il y a de la tempête, enfin des tempêtes de sable ou des choses comme ça, c'est pas forcément gagné. Hein. Souvent, les astronomes, la dernière éclipse, j'ai des collègues qui ont été en Sibérie. Bon, bah, ils sont partis une semaine avant, ils sont restés une semaine là-bas. Et puis, au moment de l'éclipse, y avait des nuages, ils n'ont rien vu. Hein, alors heureusement, leur matériel n'est pas très, très important parce que, observer le soleil, il y a toujours suffisamment de lumière. Hein, ça ne pose pas de problème. On n'a pas besoin de gros télescopes. Hein, mais ils avaient fait plein de manips et ça a échoué. Et c'est courant. Hein, l'astronome qui se déplace pour observer un phénomène. Mon collègue là, qui avait été observer des occultations d'une étoile par Titan en Afrique du Sud et tout, c'est pareil. Il était en plein désert en Afrique du Sud. Au moment de l'occultation, il y avait des nuages. Jean-Eudes, l'autre jour, il a dû parler de Guillaume le Gentil de la Galésière, qui est resté 7 ans aux Indes, enfin 8 ans aux Indes pour voir les passages de Vénus. Il a raté le premier parce qu'il était en pleine mer, parce que les Anglais, on était en guerre contre les Anglais. Le deuxième, il était là, il faisait beau, puis juste au moment du passage, il y a eu un nuage et il ne l'a pas vu. Ah ben Mouchèze, ben lui il a eu une chance absolument incroyable. Hein, il était sur l'île Saint-Paul, hein, et lui il était dans un endroit où il a fait un temps pourri sans arrêt. Il y avait des tempêtes incroyables. Son bateau, les amarres ont rompu par 3 fois, etc. Et il a fait beau que pendant les 4 heures du passage de Vénus.
Dans 100 ans, dans 1000 ans, est-ce qu'on peut prévoir sur une période encore plus longue? Et lorsqu'on prévoit 1000 ans, quelle est la précision de cette prédiction? Est-ce qu'on est précis à la seconde, à la minute, à l'heure près ou au jour
Alors,
près?
Quand on fait une prédiction à long terme, l'erreur provient toujours du ralentissement de la Terre. En réalité, la Terre ralentit. Donc, dans les éphémérides, il y a un paramètre qui s'appelle le temps. Ce temps, par définition, c'est un temps uniforme. La Terre, elle tourne, mais elle ralentit. Mais le ralentissement de la Terre, que ce soit vers le futur ou vers le passé, est difficilement modélisable. Alors vers le passé, on peut y avoir accès grâce aux éclipses, justement, parce qu'on regarde la différence de position de ligne de centralité pour des éclipses observées. Dans le futur, on ne sait pas trop le modéliser. Vous savez, c'est la petite seconde qu'on rajoute de temps en temps le 1er janvier. Normalement, on devrait en rajouter quasiment tous les ans, mais on a été pendant 5-6 ans, on n'a rien rajouté. Donc ça, c'est des choses qu'on ne sait pas bien modéliser. Hein. Alors le ralentissement de la Terre, il est dû à... dans les théories de la Lune, il y a deux termes. Il y a un terme qu'on appelle l'accélération séculaire de la Lune liée au terme de marée. Alors ça, c'est quelque chose qui est lié aux marées terrestres et qui fait que la Lune ralentit sur son orbite et s'éloigne. Donc ce terme, ce coefficient d'accélération séculaire, évidemment, il va positionner sur des grandes périodes de temps la position de la Lune, ça va faire des petites variations. Et puis, il y a le ralentissement de la Terre qui fait que votre Terre, les continents qui sont sous l'ombre, eh bien, ils dépendent de la position de la Terre. Ça dépend de la rotation de la Terre. Donc, par le passé, on ajustait avec les éclipses anciennes à la fois l'accélération, enfin c'est pas une accélération, c'est la décélération en réalité séculaire de la Lune, et l'écart entre cette échelle de temps uniforme qu'on appelle en astronomie le temps terrestre et l'échelle de temps non uniforme qu'on appelle le temps universel, on ajustait ces deux choses avec les éclipses anciennes. Or ces deux choses étaient un petit peu et sont corrélées en fin de compte. Alors depuis qu'on est capable de faire des tirs laser sur la Lune, on est capable de mesurer l'éloignement de la Lune. C'est de l'ordre de 3,8 cm par an. Et connaissant cet éloignement de la Lune, lui, il est lié à la décélération séculaire de la Lune. Donc avec les tirs laser, on est capable de calculer la décélération séculaire de la Lune. Et le ralentissement de la Terre, maintenant, il est uniquement calculé à l'aide des éclipses anciennes. Alors le problème, c'est que dans le futur, si on fait abstraction de connaître le continent, enfin la partie de la Terre qui va être dans l'ombre de la Lune, la date en temps uniforme va être très précise. Elle est quasiment de la même précision qu'à l'heure actuelle, ça va être de l'ordre de la seconde, même en dessous. Hein. Tout ça parce que les éphémérides de la Lune sont particulièrement précises. Hein, les éclipses de la Lune, les éphémérides de la Lune, c'est très bon sur 6000 ans à peu près. Et puis le Soleil aussi, donc c'est des théories qui sont très, très stables. Si vous comparez les différences d'éphémérides américaines, françaises, etc., vous avez des différences qui sont très, très petites entre les autres. Ce qui prouve qu'on fait des choses de manière totalement différente et on arrive au même résultat. Ça prouve que quelque part, c'est bon. Ou qu'on commet tous les deux les mêmes erreurs. Mais enfin, en général, c'est n'est pas le cas parce que quand on se trompe, ça marche mal très rapidement. Donc on est capable de prédire avec une relativement bonne précision en temps uniforme. À partir du moment où on veut savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous, c'est beaucoup plus délicat. Alors dans le passé, quand les historiens nous demandent les éclipses qui passent sur telle ou telle ville 500 ans, 600 ans avant Jésus-Christ, eh bien il faut toujours préciser qu'il y a une incertitude, qui est l'incertitude qui est liée au ralentissement de la Terre. Et si vous prenez des... Alors quand on fabrique des grandes séries d'éclipses, moi j'ai fait des canons d'éclipses sur 6000 ans, si vous regardez les canons d'éclipses qui ont été fabriqués au début du 20e siècle, eh bien, vous allez, à l'époque, on connaissait mal le ralentissement de la Terre et les éclipses sont fausses. Donc, au fur et à mesure qu'on connaît mieux le ralentissement terrestre, ça se fait. Alors, c'est un petit peu un jeu de va-et-vient, puisque plus on découvre des sources historiques qui nous donnent une éclipse certaine en un lieu connu, à une date connue, à chaque fois, on a une information importante. Et inversement, quand on commence à bien connaître le ralentissement de la Terre, on est capable de prédire des éclipses en des lieux donnés sur des périodes très importantes.
Dans vos calculs historiques, est-ce que vous tenez compte de la dérive des continents ?
Non. Parce que sur l'incertitude, en réalité, quand vous regardez cette... Alors, il faut que je regarde la dernière, c'était celle-ci. Quand vous regardez cette courbe-là, vous voyez bien que si, par exemple, j'utilise cette éclipse pour calculer la différence de temps, vous voyez qu'ici, mon incertitude sur le temps, ça va être le temps que la Terre tourne de cette valeur-là, quasiment. Hein ? Donc, vous voyez que cette incertitude sur cette bande-là, elle est, je dirais, 10 000 fois supérieure à la dérive des continents. Donc on n'en a pas besoin. On ne remonte pas 100 000 ans avant Jésus-Christ. Hein. D'abord parce qu'il faut remonter jusqu'aux périodes historiques, je dirais, où on a des documents écrits. Donc en général, quand vous remontez 3 000 ans avant Jésus-Christ, les éclipses les plus vieilles de soleil que l'on a, ça doit être moins 700, je crois, avant Jésus-Christ. C'est les éclipses chinoises, je pense que c'est moins 700, ou c'est cet ordre-là. Donc... en dessous, ce n'est pas la peine d'aller. Bon, on peut le faire, hein, c'est amusant, parce qu'après, on fait des séries d'éclipses, des séries de Saros et tout, mais bon, aussitôt qu'on quitte la période historique... Alors, il y a des éclipses, quand vous avez une éclipse mixte, avec une bande de centralité très fine, alors si vous avez la chance d'avoir un lieu... La plupart du temps, le problème, c'est que les gens, dans l'Antiquité, ils disaient qu'ils avaient observé, mais ils ne précisaient pas toujours le lieu. C'est l'ambiguïté qui est là. Et puis, des fois, on connaît le lieu, mais c'est dans un calendrier dont on n'est pas tout à fait sûr de la date, parce qu'on n'a pas de correspondance avec un autre calendrier. Donc, ça sert énormément. Hein. Par exemple, la date de la mort d'Hérode, on ne sait pas quand Hérode est mort, mais on sait que l'année où il est mort, il y a une éclipse totale de lune qui était visible depuis Jérusalem. Donc quand on regarde toutes les éclipses de lune au voisinage de l'an 4 avant Jésus-Christ, eh bien on est certain qu'Hérode est mort dans l'an 4 avant Jésus-Christ. Donc ça permet de fixer certaines dates comme ça. Alors il faut se méfier aussi, hein, il y a des gens qui inventent des fausses éclipses. Oui. Où est-ce que c'est que j'ai ça ? Voilà. C'est ici, ça c'est des éclipses anciennes. Hein. Vous voyez ici, c'est un historien byzantin qui s'appelle Zosine, au 5e siècle, au début du 6e siècle, dans son histoire naturelle à propos de la bataille qui eut lieu le 5 septembre 394 dans les Alpes juliennes entre Gênes, etc. Zosine écrit « Lorsque Gênes marcha à leur rencontre avec l'ensemble de ses troupes et que les armées en vinrent aux mains l'une avec l'autre, il se produisit au moment même du combat une éclipse de soleil si complète qu'il sembla plutôt faire nuit que jour pendant un laps de temps considérable. » Alors ça, il l'a inventé complètement, hein, parce que ce jour-là, on connaît cette date, il n'y a jamais eu d'éclipse. Hein, donc il explique sa défaite en disant, il y a eu une éclipse, on a perdu nos moyens. Il n'y a jamais eu d'éclipse le 5 septembre 394. Hein, là aussi, c'est connu, c'est quelque chose qui est assez connu. Hein, on ne connaissait pas l'année de la mort de l'empereur d'Occident, Louis Ier le Pieux, c'était le fils de Charlemagne. Hein, grâce à une chronique médiévale, on sait que l'année où l'empereur mourut, il y eut une éclipse de soleil le mercredi avant l'ascension. Le calcul montre qu'une éclipse totale de soleil fut visible en Europe le 5 mai 840, veille de l'ascension. Donc l'empereur est mort en 840. Donc vous voyez, les éclipses, ça sert aux historiens aussi. Hein. Et ça sert surtout à fixer les chronologies. On a des chronologies, par exemple, babyloniennes, enfin assyriennes, où il y avait ce qu'on appelle à l'époque des années éponymes. C'est-à-dire qu'on donnait à l'année un événement ou le nom d'un gouverneur ou d'un empereur. Et dans on a des cycles, on a une série d'à peu près 150 à 200 années. Donc c'est une très grande période de temps. Et dans ces années, il y a une année qui s'appelle l'année de la grande éclipse. Alors en cherchant toutes les éclipses, ça c'est sur la ville de Marie, en cherchant toutes les éclipses qui ont eu lieu sur cette ville-là, on essaie de recaler toute cette chronologie par rapport à l'histoire. Alors ce n'est pas le seul élément qu'on utilise, on utilise tous les éléments évidemment de l'archéologie, qui sont le carbone 14, la dendrochronologie ou des choses comme ça, mais de temps en temps, ça donne un élément supplémentaire et ça permet parfois de se tirer d'affaire, mais ce n'est pas évident du tout. C'est les marées. Alors c'est assez compliqué. C'est que la Terre n'est pas indéformable, hein, donc il y a une déformation. Donc là, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène de marée sur la Lune, c'est-à-dire que la Lune va être déformée et va y avoir un bourrelet. La conséquence de ce bourrelet fait que la Lune a une orbite qu'on appelle synchrone avec la Terre, c'est-à-dire que la Lune présente toujours sa même face à la Terre. Et le bourrelet est toujours face à nous. Bon, inversement, sur la Terre, il y a un phénomène de marée océanique, mais il y a aussi un phénomène de marée terrestre. On ne le sent pas, mais deux fois par jour, on monte de 50 cm et on descend de 50 cm. Hein ? Eh bien, ce bourrelet, il est un petit peu en avance par rapport au passage au méridien de la Lune. Donc la Lune attire sur ce bourrelet pour le ralentir. Alors l'action qui se fait, c'est que la Terre ralentit, et elle va ralentir, et la Lune va s'éloigner en même temps, et elle va ralentir jusqu'à ce que la Terre, enfin, elle devrait ralentir, jusqu'à ce que la Terre soit synchrone avec la Lune. C'est-à-dire jusqu'au moment où la Lune sera très loin, donc elle fera une révolution beaucoup plus longue pour faire le tour de la Terre, et en même temps, la Terre va énormément ralentir. Et au moment où le jour sur la Terre sera égal au ralentissement, à la révolution de la Lune, c'est-à-dire à ce moment-là, la Terre présentera toujours sa même face à la Lune, et à ce moment-là, la Terre sera synchrone par rapport à la Lune. Alors ça, c'est théorique, ça marcherait s'il y avait que la Terre et la Lune. En réalité, il y a le Soleil. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'atteindra jamais cette situation. Avant, il y aura des perturbations solaires qui feront que la Lune va revenir vers la Terre. Mais c'est ce phénomène-là. Donc on a un ralentissement de la Terre. Alors on ne sait pas trop à quel niveau ça a lieu, parce que ça a lieu aussi au niveau des océans, au frottement des océans. On ne sait pas tout à fait à quel endroit ça a lieu, parce qu'il y a des phénomènes de dissipation. C'est quelque chose qui est assez compliqué, mais c'est quelque chose qu'on mesure. On est certain que ça ralentit. En tout cas. Mais l'étude des marées, même dans le système solaire, c'est quelque chose qui est particulièrement complexe. Il faut observer ça sur des très grandes périodes de temps. Mais vous avez ce phénomène partout. Hein, les satellites de Jupiter, il y a des phénomènes de marée importants. Ce qui fabrique les volcans sur Io, eh bien, c'est simplement que Io est près de Jupiter, il y a un effet de marée très important, et puis que la croûte se fissure et que ça fait des volcans. Donc l'effet des volcans sur Io, c'est dû aux marées solides, je dirais. Hein, et ça a toujours lieu. Hein, ça, c'est à partir du moment où vous avez un corps qui n'est pas rigide, vous avez une déformation du corps qui est sous les forces de marée. C'est quelque chose qui est différentiel. Donc ça s'allonge des deux côtés. Vous avez un bourrelet des deux côtés. Et pour la Lune, ça... Alors, la plupart des satellites sont synchrones, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils présentent toujours leur même face à la planète. C'est le cas pour Mercure autour du Soleil, par exemple. Ça varie pratiquement jamais. Alors la Lune, on en voit un petit peu plus. Parce que comme la vitesse orbitale de la Lune n'est pas constante, il y a des moments où elle va un petit peu plus vite, donc on voit un petit peu plus à l'ouest. Puis des moments où elle va un petit peu plus lentement, donc on voit un petit peu plus à l'est. Et puis de temps en temps, comme la Terre, sur la Terre, on a une parallaxe qui est quasiment d'un degré, de temps en temps, on voit un petit peu plus le nord. Puis de temps en temps, on voit un petit peu plus le sud. Ce qui fait qu'on connaît plus de 50% de la surface lunaire, ce qu'on appelle la libration de la Lune. Mais tout ça, on en tient compte, hein, puisque en réalité, quand on fait des prédictions très précises, on ne se contente pas de prendre un diamètre moyen. Où est-ce qu'il est ? Voilà. quand on fait des prédictions très précises, eh bien, on tient compte de la forme du limbe. Hein. On fait un premier calcul avec un diamètre moyen, puis après, on calcule les points de contact. Alors, pour calculer les points de contact, on calcule à quel endroit le dernier contact ou le premier contact avec l'ombre, avec la Lune et le disque solaire va avoir lieu. Et puis, on regarde s'il y a un petit trou. Hein. Ben, s'il y a un petit trou, ça fait un décalage de temps. Alors là, c'est augmenté par 10, hein, c'est un facteur 10. Hein, on n'est pas si perturbé que ça, la Lune, mais c'est décalé d'un facteur 10. Donc vous voyez, en fonction, on fait des prédictions générales avec un rayon moyen de la Lune, et puis après, quand on veut un calcul beaucoup plus précis, bah, on regarde à l'endroit où on est, on regarde la libration de la Lune topocentrique, donc à l'endroit où on est, puis en fonction de la libration de la Lune, on regarde les contacts, et puis en fonction des contacts, on regarde le décalage qu'il va y avoir dans l'instant du contact. Donc on arrive à des précisions beaucoup plus importantes. Mais ça on le fait, on ne le fait pas d'une manière automatique sur ordinateur, on le fait au cas par cas pour les observateurs qui en ont vraiment besoin. Alors, la plupart du temps, les gens vont voir une éclipse, ils ne veulent pas savoir au dixième de seconde près quand est-ce que ça commence. Ils veulent savoir à peu près où il faut aller pour que ça dure le plus longtemps possible, où il va faire beau, et puis l'endroit où a lieu le contact en fin de compte. Ça leur suffit. Bon, puis après, si c'est décalé d'une seconde, c'est pas une catastrophe. Hein. De toute façon, ils filment longtemps avant et puis longtemps après.
Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Donc, si j'ai bien compris, cette année à Poitiers, même les années suivantes, il n'y a pas trop de chance.
Bah oui, il faut attendre 2051.
Voilà. Bon, bah on essaiera d'attendre. Bon, on se déplacera, voilà.
Non, mais l'avantage, c'est que vous pouvez vous payer des beaux voyages. Non, mais il y a des gens qui sont des chasseurs d'éclipses qui vont partout. Hein. L'éclipse que je vous ai montré qui avait lieu au pôle, là, je connais la personne qui a fait les photos. Il a été faire la dernière éclipse en février l'année dernière en Antarctique. Il est monté en haut du plus haut sommet en Antarctique, qui est quand même à plus de 4000 ou pas loin de 5000 mètres, hein, par moins 60, pour faire sa photo. Hein, au début, il voulait emmener des gens. En général, quand il y a eu une éclipse, c'était en Syrie, il avait fait un grand camp en Syrie, il avait amené, bon, il vit de ça en réalité, hein, donc il avait emmené plein de monde et observé l'éclipse. Il avait voulu faire la même chose en Antarctique, et il s'est aperçu que les conditions de vie en Antarctique étaient telles que même dans la base russe, il n'a pas pu emmener des gens, c'était trop risqué. Parce que le cargo qui allait là-bas, il y a un moment, il y a un point de non-retour, c'est-à-dire une fois qu'il est parti, il n'a plus assez de carburant pour revenir. Et puis en Antarctique, la base russe où il était, il a fait 800 km en chenillette pour aller jusqu'au pied de la montagne. Puis là, après, il a fallu qu'il monte au sommet de la montagne. Alors là, il nous a raconté, il a eu il a eu une tempête avec moins 60, moins 65, hein, pendant plus de 24 heures, enfermé dans sa petite toile. Bon, ils étaient deux, c'est du sport de très très haut niveau. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits merveilleux pour faire des éclipses. Mais il faut aller dans les déserts, hein. Il y a le désert de Gobi ou des choses comme ça. Mais de plus en plus, il y a lui, il organise à chaque fois bon, quand c'est pas trop complexe et pas trop physique, il organise des expéditions qui sont ouvertes au public. Alors, ça coûte un petit peu cher, évidemment, mais c'est un spectacle vraiment inoubliable. Et je trouve que c'est l'occasion, en plus, de visiter un pays. Hein. Là, pour la Chine, il va y avoir encore plein de voyages en Chine. Hein. Vous allez avoir l'île de Pâques.
En 2009.
C'est en 2010, 2011.
De Pâques, ouais, c'est pas passé.
Non, si, l'île de Pâques, c'est passé, mais il va y avoir la Polynésie, c'est en 2010. Vous pouvez aller en bateau aussi. Hein, quand il y a eu l'éclipse qui était en plein milieu de la Méditerranée, ben, il y a des gens qui avaient des croisières où le bateau s'arrêtait en pleine mer et puis vous regardiez l'éclipse. Ou vous louez un bateau puis vous allez sur place.
Je suis prêt à accompagner.
J'ai des collègues qui ont fait ça, hein, qui aiment bien naviguer. Ils ont été jusqu'à Athènes, ils ont loué un bateau à Athènes et puis ils se sont arrêtés en plein milieu de la ligne de centralité pour observer l'éclipse.
Bien. Donc d'ici là, d'ici 2051, donc on aura deux autres rendez-vous. Il y en aura un demain à l'université de Poitiers. Donc par contre, c'est l'après-midi, c'est à 14h15. Ce sera une intervention sur la perception de l'univers de Galilée jusqu'à Einstein. Donc ce sera l'après-midi. Et ensuite, dans 15 jours, le 17 février, il y aura Jean-Eudes Arlot, qui était venu la semaine dernière, qui viendra nous parler du cas de Pluton. Pourquoi, en 2006, elle n'est plus considérée comme une planète. Voilà. Donc d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à bientôt. Merci.